Salut à tous, comment
bonsoir.
Ça va?
Hey.
Salut.
Alors bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Et c'est un numéro hors série, figurez-vous. Dans lequel on va parler donc de Angel, la série.
Mais plutôt pourquoi Angel c'est génial.
Pourquoi Angel c'est génial. Donc je suis Sartman. Je suis officiellement le plus grand fan de Buffy de Sartre.
Et le moins grand fan de Angel.
Alors ils sont en train de changer. C'est en train de changer parce que je suis en train de re-regarder Angel.
Enfin tu grandis, tu mûris.
Et ouais, je suis en train de me dire ah finalement c'est pas mal, il y a des trucs intéressants. Donc on va parler de beaucoup de Angel ce soir, même pratiquement que de ça.
Ça tombe bien vu que c'est un hors-série.
Je suis donc accompagné de Riley donc qui
Salut.
Sera éternellement le mec qui est passé après Angel, le
ça
deuxième.
Fait... ça fait mal. Ouais, bah oui, j'ai rien à dire. Mais oui, très bonne vanne.
Buffy te le faisait remarquer régulièrement, non? Ah, Angel faisait pas comme ça.
Angel, bah oui.
Il y a avec moi aussi Clément. Comment ça va, Clément?
Bonsoir, bah ça va, impeccable.
Clément, c'est le démon le plus classe du Whedonverse. Il aurait même dû devenir récurrent d'Angel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es pas.
Mais je pense qu'il aurait dû avoir son spin-off, même carrément.
Clément, le spin-off.
Ça se passe dans quelle ville, du coup?
Ça se passe à Tijuana. Ça commence à Tijuana, c'est sûr.
Ah oui, puis après, ça part dans le.
Regarde le bateau là, qui arrive en Égypte.
Alors, mais non, mais.
Non, mais là, les gens ne voient pas.
Faut pas commenter ce qu'on est en train de regarder, parce qu'on regarde quelque chose qui n'a rien à voir. Et enfin, nous avons un spécialiste mondial d'Angel ce soir.
Le seul podcaster fan de Angel.
J'avais pas envie de pas le dire. Mais nous avons Stavro avec nous. Comment ça va?
Bonsoir, ça fait déjà 10 minutes que je parle, mais enfin je me présente. Salut.
Salut.
Petit loup.
Salut. Donc Stavro, toi t'es un spécialiste du podcast aussi? Tu fais quoi?
Alors spécialiste du podcast? Non. On peut le dire, non. Et Angel, oui, bah, je suis pas spécialiste, mais je suis un des rares fans. Voilà.
Ah. Trop fan.
Jusqu'au bout. Et même je mets un vrai fan, on en parlera tout
un
à l'heure,
fan.
Mais vraiment okay. Un fan
le
jusqu'à un point peut-être surréaliste.
Et donc tu fais des podcasts dans la vie, on peut t'écouter.
Alors oui, je fais des podcasts, je suis présentateur de la fucking kermesse avec mes camarades Steven, Zassa et plein d'autres qu'on invite, Alexis, tout ça.
Excellent titre.
La fucking kermesse,
excellent nom.
Et la F-Kermesse, on a mis beaucoup de temps à le trouver. Oui, sur Twitter, sur iTunes, c'est la F kermesse parce que le fucking n'est jamais passé avec Apple.
On a essayé pour ça.
On a essayé.
Il paraît.
Et après, j'interviens dans Universe plus modestement, mais je suis là, un chroniqueur régulier. Donc, podcast un peu comme le vôtre, mais sur Doctor Who.
Excellent. Et là, vous faites le marathon saison 9.
À chaque semaine, son épisode de Doctor Who et donc son podcast de Universe.
Podcast par semaine.
Ouais, c'est fatigant.
Fort. Bah ouais.
Mais j'ai gagné un Burger King dans l'affaire, donc. J'ai fait
un
pari sur la fin de la saison. J'ai eu raison. J'ai mangé gratuitement.
Bien joué.
Classe.
Alors, moi, je vous rappelle le principe du podcast.
On parle dans des micros.
Voilà.
Les gens nous entendent sur Internet.
C'est complètement dingue. Attention, on est en 2015, quoi. Nous, parce que le principe de notre podcast, en fait, on va mettre l'épisode en lecture et on va le commenter scène par scène, plan par plan, même carrément. On va vous donner des explications, des critiques, des infos, des anecdotes sur Angel à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le show et l'apprécier
à sa juste valeur.
On t'a fait une surprise, c'est lui qui l'a dit.
Waouh.
Je t'ai pas prévenu.
C'est une surprise de merde.
C'est Noël. C'est la fête, c'est Noël.
Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict, Mixcloud, tout ça. Et plein d'autres sites incroyables. Et aussi en vidéo sur YouTube. Je vous rappelle notre site, c'est pourquoibuffycestgénial.wordpress.com, tout attaché sans accent. Et pour nous envoyer des petits mails, c'est pourquoibuffycestgénial@gmail.com. Hein, @gmail, très important pour faire des Google Docs, tout ça.
On fait pas encore.
Stavro
nous donne un conseil.
Et maintenant,
incroyable.
Vous pouvez même nous retrouver sur des sites de fous que sont Slayer Revival et Buffy Angel Show. Des sites indispensables pour tous les fans de Buffy et donc forcément de Angel. Hein.
C'est un site sur le trash metal, pas du tout.
Exactement.
Ils en parlent sûrement.
Le sommaire, de quoi allons-nous parler, Riley? Fais-nous le sommaire.
Alors, on va faire une petite présentation de Angel, hein, quand même, parce que c'est spécial.
Comment ça, c'est spécial?
Non, pardon, c'est un épisode spécial,
c'est
du podcast, donc on va faire une petite présentation.
Dans ce cas-là, c'est
Angel. Ensuite, on va regarder et commenter l'épisode The Prodigal. Prodigal.
Ah.
Comment vous le dites, vous prononcez?
Prodigal.
C'est l'épisode 15 de la première saison. Ensuite, rubrique de l'invité avec Stavro qui va nous parler de sa passion pour
Bonsoir.
Angel. Et
oh, oui.
Agent of Child.
Tous les trucs bien, quoi.
Malheureusement. Après, un petit si t'aimes Angel, tu vas aimer ça.
Ah,
spécial.
On va vous conseiller des œuvres en rapport avec Angel, c'est ça l'idée.
C'est tout une qu'on est en train de regarder en ce moment là avec des requins.
Ça fait seulement 3 fois en plus, c'est super.
Je vous en supplie, arrêtez
mais
ça.
Mais on ne s'en lasse pas. Moi je m'en lasse pas personnellement.
Mais c'est un film qu'on redécouvre à chaque visionnage.
C'est ça.
Il y a une seconde lecture, t'as vu.
Donc on vous expliquera quel film c'est en fin d'émission.
Teaser.
Et ensuite, c'est tout de suite, en fait, on fait des gros bisous, comme d'habitude.
Tout de suite des gros bisous.
La rubrique des gros
bisous. Est-ce que ça serait pas le moment de lancer le jingle gros bisous?
Un nouvel up.
Alors attention, c'est parti.
Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll
do what? Lick me to death.
This is a time of celebration, so sit still and be quiet.
Is everyone here very stoned?
I love you, Xander. I'll never leave you.
I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you.
Yeah.
I see her and raise you a yeah.
She bathes you?
Nothing can defeat the penis!
Alors moi je commence les gros bisous parce que c'est je fais un gros bisou à un enfant, donc c'est prioritaire.
Prendre un enfant par la main.
Il y a des gens qui aiment pas trop ça.
Et l'emmener vers le bain.
C'est interdit dans certains pays de faire des gros bisous à des enfants.
Je fais un gros bisou au petit Liam qui habite à Rennes.
Hey, salut Liam. Pardon.
Liam, non c'est Liam tout court.
Liam
Tetsuo. Qui habite à Rennes et qui a le même prénom que Angel quand on le découvre dans cet épisode.
Et ça, c'est un peu la classe.
Il est premier à de grandes choses.
Exactement. Donc, gros bisous.
Clément, tu avais un gros bisou, je crois.
Je sais même plus.
Si, pardon. Oui, tout à fait.
Vous avez menti.
Tout à l'heure, on fait un gros bisou à Laura, comme d'habitude. Hein.
Non. Là, je fais un gros bisou à Hello Sterve. On avait parlé à.
Il a changé de meuf.
Ça c'est malin.
Ça sera coup au montage, je crois.
Heureusement qu'on est en direct. C'est ça que c'est bien ça.
Bref, allez, on avait déjà fait un gros bisou à Hello Sterve dans un podcast précédent, mais je voulais bien rappeler aux gens d'aller voir ce qu'elle fait parce que c'est très drôle.
Elle fait quoi?
Elle est dessinatrice. Elle fait de la BD. Elle dessine en fluide glacial en ce moment. Elle fait des petites pastilles, si j'ai bien compris son actualité.
Des pages complètes.
D'accord, ok. Et ce qu'elle fait est très marrant. Donc voilà, on va mettre un petit lien.
Kawaii trash.
C'est une rubrique pour pécho ici ou pas? Enfin, est-ce qu'on doit faire des gros bisous à des gens qu'on aimerait pécho dans le futur?
Vas-y, ouais, c'est ce que tu veux.
Oh là. Est-ce que tu aurais dit ça si c'était un homme, hein?
Bah oui, je ne te connais pas encore pour faire des
comme ça.
C'est vrai.
J'aurais pu.
C'est vrai. Eh bien non, pas du tout. Non, c'est un gros big up à cette fille qui fait des trucs plutôt cool.
Moi, je voulais faire un gros bisou à tous les fans de Angel qui nous réclamaient ce podcast, ce numéro spécial depuis très très longtemps. Donc, gros bisous, merci à vous. Et on va essayer d'être à la hauteur. Hein, c'est pas gagné, mais on va essayer de donner.
Peut-être qu'on fera plusieurs podcasts hors série.
De donner le maximum, oui, parce que voilà. Et moi, je me suis rendu compte de ça en préparant cette émission. Il y a énormément de choses à dire sur Angel, donc. Pas à l'abri d'en avoir un deuxième. Voilà. Bah déjà, faisons celui-là. Stavro, t'avais un gros bisou toi à faire?
Alors, on m'a dit, est-ce que t'as un gros bisou? Je dis, bon, je trouverai bien sur le moment. On est sur le moment.
Et t'as pas
je vais pas vraiment trouver. Alors, un gros bisou déjà à ma mère, sans qui je ne serais rien. À Astronacha, une illustratrice super cool que vous devriez aller voir.
Tu veux pécho à toi?
Toi aussi, tu veux pécho des illustratrices.
Okay. En fait, c'est ma meuf.
Enceinte,
mais on le dit
pas. Ah oui, bah merde.
On le dit pas. Donc, c'est gagné.
Cool.
Est-ce que je mettrais. Ah non, présentation de la série, Riley, on fait une présentation de la série.
Ah, y'a pas de jingle pour ça?
Ben non.
Okay.
Tu te fais un jingle? Ah, je peux te mettre un jingle. Attends.
Les répliques de Angel. Hein.
Alors, je peux te mettre un jingle. Attention, c'est parti.
Je sais pas de lui son jingle.
Oh, Bobby.
Yes, Angel.
Oh, I love you so much. I almost forgot to brood.
And just because I sent you to hell that one time doesn't mean that we can't just be friends.
Huh? Or possibly more.
Gasp! No, we mustn't.
Kiss me.
Bite me.
How about you both bite me?
You're back!
Clément, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans ce
c'est
hors-série?
Clément qui
non,
parle
lui, c'est Riley en fait.
Silence, c'est moi,
tu
chef.
Te calmes.
Tu te calmes.
Riley, de alors, quoi allons-nous parler aujourd'hui dans
on
ce
parle
ce
de Angel, il me semble. Angel, c'est donc une série créée par Joss Whedon et David Greenwald. Vous savez.
C'est qui Joss?
Il y a Jamel Debbouze, je crois, dedans. Hein.
C'est avec Jamel Debbouze. Et qui a été diffusé.
C'est un film de Luc Besson, hein, c'est pas ça?
C'est ça.
Putain, ça y est.
Non, allez, on laisse finir.
Il fallait qu'on en parle.
C'est Angela, en plus.
Il fallait en parler.
Qu'est-ce que je disais? Oui, créé par Joss Whedon, David Greenwald et Luc Besson, du coup. Diffusé à partir du 5 octobre 1999. Et jusqu'au 19 mai 2004 sur bon. WB. Et ça a été diffusé en France sur TF1, figurez-vous, à partir de 2001. Très mal diffusé.
Extrêmement mal diffusé.
On en a parlé tout à l'heure, c'est du sabotage, hein, clairement. Ils ont saboté M6.
Oui, parce que donc, tu, je sais pas si tu l'as
ils
dit, mais.
Ils ont chié dans la colle.
Aux États-Unis, c'était diffusé très très intelligemment sur la même chaîne que Buffy.
L'un après l'autre.
À la suite, l'un après l'autre, c'était une bonne idée.
Ça, on a dû perdre des gens, forcément.
Donc, c'est le spin-off de Buffy, hein, officiel. Et donc, il y a des crossovers, comme tu disais, très très cool.
C'est un peu Buffy Atlantis.
J'irai pas jusque là, mais
fier de me.
S'il y a des fans de Stargate qui nous écoutent, hein,
Le casting, alors David.
L'accent du Nord qui ressort en du bruit là.
Du Nord de la Bretagne, bah oui, c'est vrai.
Bretagne Nord. David Boreanaz,
un comédien voilà, assez limité, hein, selon moi. Mais qui non, va, voilà, au fur et à mesure de sa série, non, se révéler, révéler des choses.
Là, il a des choses à jouer.
Voilà.
Contrairement à Buffy où il faisait un peu juste le petit copain mystérieux.
On peut dire en tout cas qu'il est meilleur dans Angel que dans Buffy.
Carrément.
Voilà, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr. Ouais. On retrouve aussi Charisma Carpenter, un Cordelia.
Ah. Il porte pourtant très mal son nom. Oh.
C'est un peu de charisme quand même. Du gros charisme. Alexis Denisov aussi, qui est saison 3 de Buffy. Hein. Wesley, vous connaissez
Wesley, donc monsieur Allison Hannigan, hein, pour les petits potins, hein, ceux qui sont pas au courant. Bah oui, ils sont mariés.
Il a tout réussi dans la vie.
Il a tout réussi.
Il est fort.
Il est très fort.
G. August Richards, qui joue Gunn, hein, qu'on ne verra pas ce soir, malheureusement.
Non.
Il y a aussi Amy Acker, donc qu'on connaît bien, qui joue Fred, qu'on ne verra pas ce soir, mais qui est un perso.
Elle, par contre, c'est la chose. Elle arrive
putain, mais ouais, Amy Acker, elle change un peu la série.
Elle joue vachement bien déjà.
On parle même de James Marsters, hein, qui arrive en saison 5, qu'on ne verra pas ce
Buffy
soir.
Buffy is awesome.
James Marsters Spike d'Angel, c'est génial.
C'est non. Et aussi Glenn Quinn. Qu'on ne verra pas ce soir.
Il est déjà mort.
Malheureusement, épisode 15, il est déjà mort. C'est Doyle, un mi-humain, mi-démon, qui était un bon perso, mais.
C'était vachement cool.
Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, Riley, sur cette série, Angel? C'est aussi un podcast dans lequel on mange, et ça, c'est important de le préciser.
Début, hein. Podcast du terroir.
Et voilà. Riley.
Ce soir, un petit peu de. Ah non, pardon.
Je fais très bien.
J'ai mis très bien ma idée, merci.
Alors le pitch de la série, parlons-en.
Bah,
de quoi ça parle, Angel?
Pitchons un petit peu.
Angel, donc le vampire qui a une âme, part après la saison 3 de Buffy à Los Angeles. Où il monte.
C'est malin ça, Angel Los Angeles, c'est bien vu.
Il monte.
Si on allait le chercher loin, c'est vrai.
C'est important, parce que le titre du premier épisode, c'est City of.
Alors voilà, vous vous moquez du jeu de mots, voilà, les anges, les mecs qui s'appellent Ange, il va à Los Angeles, les anges en espagnol bien sûr. Mais au-delà du jeu de mots, c'est quelque chose qui est très important, parce que la ville, Los Angeles, va avoir un rôle très important dans la série, va presque même être un personnage à part entière de la série.
Je suis très d'accord, et c'est beaucoup mieux Los Angeles que Sunnydale, je trouve, niveau ambiance ou choses à raconter, voilà.
Sunnydale, c'est bien.
C'est autre chose, Sunnydale, c'est la petite ville où les gens... Los Angeles, c'est vraiment la ville dangereuse où les gens se perdent dans l'alcool, dans le sexe, dans la misère.
Los Angeles, LA, dans LA, il y a Hell, tu vois, c'est l'enfer.
C'est un peu ça, donc c'est aussi un des thèmes de la série, Los Angeles, City of, comme le titre du premier épisode. Est-ce que c'est la ville des anges finalement, ou la ville des démons, la ville du mal, de hell, comme tu le dis? C'est un thème très important dans la série, effectivement.
Donc Angel monte une agence de détective dans cette ville horrible.
Là par contre le nom fait bien tiep, le nom de l'agence.
Angel Investigation. Bon.
C'est sale. Chez Angel.
On dirait un nom de pizzeria. Chez Angel. La calza de moitié prix.
La casa d'Angel.
Il monte une agence de détectives pour aider les gens dans le besoin, bien sûr. Et donc il affronte les forces démoniaques incarnées en particulier par le cabinet d'avocats Wolfram et Hart, hein, qui va revenir tout le temps dans la série.
Dont on parlera pas énormément dans cet épisode, non. Mais qui est en fait le gros méchant de toute la série.
Sorte de big bad général sur l'ensemble de la série.
Moi, ça change pas à chaque saison, quoi.
Voilà.
Salut Buffy.
Les thèmes d'Angel, quels sont-ils, Riley?
Alors, c'est un peu. Ça prend en quelque sorte la suite de Buffy. Hein. Cette fois, Angel, ça parle du fait d'être un adulte, alors que dans Buffy, c'est plutôt le passage vers l'âge adulte. Et ça parle aussi d'avoir des responsabilités, comme avoir un travail, gagner de l'argent, avoir un enfant, avec l'histoire avec Connor. Hein, donc. Et puis même ce soir, on va en parler de la filiation.
Avoir des employés aussi, des gens qui comptent.
Avoir des employés, voilà, ça parle de trucs un peu plus. Des responsabilités.
C'est très adulte.
Bah, Buffy, c'est une série sur le devenir, tu vois. Et Angel, c'est une série sur l'existence et comment tu existes sans trop te mettre en danger ou changer de retourner ta veste.
Oui, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Angel, il est beaucoup plus développé, forcément, vu que c'est sa série, et donc il a plein de trucs à jouer, c'est pas juste le petit copain de Buffy, donc c'est très très cool. Il a aussi un entourage très très important, comme dans Buffy, avec des persos forts, donc il y a Wesley, Cordelia, Fred, Lorne.
Tous les persos, surtout, ils évoluent vachement du début à la fin de la série. C'est génial, c'est plus du tout les mêmes, quoi.
Et là où il y a ça aussi qui est très cool, c'est là où Buffy détourne les connes du teen drama hein, de...
Ouais, ouais, important ça, ouais.
Angel, lui, la série détourne les codes du polar, quoi, de la série policière, détective.
À travers le okay. fantastique.
À travers le fantastique, exactement. Comme dans Buffy.
Donc alors oui, donc beaucoup, énormément de thèmes dans, et de choses à dire à travers cette série. Presque aussi riche, hein, presque, hein, que Buffy.
Il y a moins de saisons.
Beaucoup plus riche que Buffy.
Mais donc, alors n'attendez pas ici qu'en une heure et demie, on va pas balayer tout Angel, hein, bien sûr. Le but de ce podcast, c'est avant tout de présenter la série pour ceux qui éventuellement hésiteraient à la regarder.
Bah, vu le spoil qu'on va faire, je sais pas si on vraiment va la regarder
avant. Voilà, mais c'est aussi de donner des pistes de réflexion à ceux qui la connaîtraient. Et éventuellement, et ça c'est notre sacerdoce, hein, comme dirait Clément, d'apprendre des choses aux fans, aux gros fans de Angel. On va essayer de leur apprendre des choses.
Il veut éteindre Mega Shark.
Des choses qui leur. Mega Shark.
Attends, juste dire aux auditeurs.
Versus
on est déconcentré par un truc qui nous file, qui passe en boucle en plus.
Mais c'est un très bon film, je vois pas ce qui te dérange dans ce film.
Ouh. Moi il y a Christopher Judge, donc je suis fasciné.
Ouais, oui, 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 non mais les gars, bien, c'est pour ça.
Que c'est pas reconnaître le.
Pourquoi qu'il a bu dans ce film.
Je pensais là, c'est pas que dans le film qu'il boit.
Ça, c'est, ouais, c'est des années d'expérience là.
10 saisons qui s'arrêtent d'un coup.
Des conventions et tout, ouais, c'est chaud.
Alors moi je vous propose de passer tout de suite à la présentation de l'épisode du jour avec un petit jingle.
Hey guys! Security system, remember? What's the point of having it if you never turn it on? I could have been anyone or anything. Move your entrails.
So you're back.
Very good, Mr. I can't tail the suspect during the day because I'll burst into flames, private eye.
What'd you find out?
First off, I hate following detail.
The voyeuristic aspect is rather unseemly.
Can I mention traffic and parking or the complete lack of it?
Not like in the movies, is it?
No, but fortunately I am.
Bon. Pour parler de Angel, on a choisi l'épisode 15 de la saison 1.
Ah!
The
Pretty Girl.
Ou 1753 en
fait. Ah, bah oui, c'est une traduction mot pour mot. D'accord.
Ça veut dire, ils sont forts. Traduction du titre, hein, Sartman, du coup, on n'est pas.
Bah, Prodigal, ça veut dire le prodigue. Le prodigue, hein, on est d'accord.
Ah, il regarde le film.
Ah, oui, Clément est encore sur Mega Shark.
Donc, c'est l'enfant prodigue, c'est ça?
Le fils prodigue. Donc qui fait référence à l'expression, la légende un peu biblique, il y a ça dans la Bible.
Une parabole.
Ouais, d'un mec qui est parti, déjà c'est un père qui avait deux fils, et l'un des deux se barre.
Et on dirait que je roule les buts d'une blague. Un père, il a deux fils.
Bah, la Bible, c'est une grosse blague, on est d'accord.
Oh là là,
mal. Et donc, il y en a un d'eux qui se casse, qui va découvrir le monde, qui dépense tout son argent, qui finit, ça se passe mal pour lui, tout ça. Et il finit par revenir auprès de son père aimant, et il se rend compte que c'est bien d'être avec son papa, tout ça, et c'est bien de revenir parmi les siens, parce qu'il s'était perdu. C'est un peu aussi le mythe de la brebis égarée. Ça va.
On dirait le programme de Maréchal Pétain.
C'est la même.
Un retour à la campagne.
Mais oui, c'est ce qu'il faut. Et donc, c'est ça, le mythe du fils prodigue, c'est un peu ça. Revenir parmi les siens et se rendre compte que finalement c'est bien. Et donc l'épisode va poser la question de la famille. Quelle est la famille d'Angel? Est-ce que la famille d'Angel c'est les vampires et Darla qui l'ont engendré, qui ont fait de lui un vampire?
Son connard de père qui le bat.
Ou est-ce que c'est son père Il le bat pas.
Il est un père aimant. Il doit pas mal battre. Hein,
et si, il se fait tabasser.
Pas trop.
Petit taquet.
Mais les gars, on est au 18e siècle. Hein. Si ça se passe comme ça.
Bon, Riley lui préfère faire des bisous aux enfants, donc ça me choque un peu, quoi.
Où est-ce que sa famille, c'est aussi peut-être sa nouvelle famille qui s'est construite, c'est Cordelia, Wesley et son ami Kate.
Ouais, mais là tu parles de trois différents, tu parles de Liam, Angelus et Angel.
Et c'est ça. Et voilà. Et donc ces trois personnes là, est-ce que ce sont les mêmes déjà? Est-ce qu'elles ont la même famille? Donc qui est le fils prodigue au milieu de ça? C'est un peu la question que va poser cet épisode.
C'est un peu comme le jeu de plateau qui est qui.
Un petit peu.
Ça, je sais pas, un jeu de plateau.
Mais si, où tu dois retourner des tuiles.
Ah ouais, c'est qui est-ce?
Non, c'est qui est-ce? Qui est-ce, tout à fait.
Ah, c'est Mariage Nardi.
Mariage Nardi.
Ah oui, il y a pas de les métiers des gens.
Mais c'était c'était un jeu télé, moi je croyais. Oui.
C'était un qui est-ce à la télé en fait.
Ah oui, je m'en souviens, c'était génial.
Pépita.
Bref, Pépita elle est pas aussi dans Pyramide.
Mais si, elle était d'abord. C'est un spin-off en fait.
C'est un spin-off et c'est ça, on retourne sur nos pattes.
Donc, voilà. C'est un épisode écrit par Tim Minear ou Menhir. Hein.
Ce soir, c'est la grosse marade.
Tim Minear, c'est donc l'un des scénaristes principaux de la série Angel. Jusqu'à la saison 4, il a écrit plus de 19 épisodes. Hein, donc, facile.
Un gros bosseur.
Et il a aussi bossé sur Dollhouse Firefly, donc des séries de Whedon, et même sur American Horror Story.
Très bonne série.
Série de merde.
C'est faux.
Et voilà, et c'est reparti.
Série compliquée.
Série compliquée. Surtout au niveau du montage,
série
c'est très
compliqué. Intéressant. Série qui, en 4 épisodes, place Anne Frank, Hitler et les aliens.
C'est quand même ça. On est à l'endroit du méga shark.
Et les exorcistes.
Bon. Par qui a été réalisé cet épisode, Riley?
Réalisé par Bruce Seth Green, un ancien de Buffy qui est... On en a déjà parlé dans un épisode, il me semble.
On en parle à chaque fois de Bruce. Ouais.
Qui a arrêté sa carrière en 2001 avec un épisode de Roswell. En série, ouais.
Moi, sa carrière s'est écrasée à Roswell, c'est assez amusant. Nouveau-Mexique.
Mais il a plus de 40 ans de carrière, hein, il a tout fait. Notamment, Clément, t'avais repéré un épisode de MacGyver.
MacGyver, hein, je voulais que ce soit noté.
L'épisode avec les fourmis ou pas?
Alors, non, j'ai pas poussé en recherche. Juste que ça, je sais qu'il a bossé sur un épisode de MacGyver, je voulais passer MacGyver.
Si c'est pas l'épisode des fourmis, ça sert à rien.
Bah, non, alors,
bientôt en série sur MacGyver, vous l'aurez compris.
Voilà.
Oh, tais-toi, mais l'épisode des fourmis, l'épisode des fourmis.
On a teasé.
Oh putain,
donc c'est un épisode.
Je le prépare demain, je peux pas savoir.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois le 2 février 2000 sur WB. Voilà. Donc est-ce qu'on a un petit pitch? Qui a préparé un petit pitch de l'épisode?
Qui a préparé un pitch?
Bah Riley, normalement il a un pitch.
Riley,
moi,
c'est
j'ai
toi,
pas le préparé pitch. Non, j'ai pas préparé le reste.
Clément, le pitch?
Bah je sais pas, non, j'ai pas de pitch.
T'as pas un pitch dans la poche?
Bah toujours pas, non.
On va pas demander à Stavro, parce que c'est évident que Stavro n'a pas fait de pitch. Voilà.
Attendez, mais j'en fais un comme ça, un pitch.
Donc, non, mais je me dévoue, je fais un pitch, pas de problème. Un pitch dans
t'as un pitch?
Oui, bien sûr.
Bon, bah c'est.
Alors, j'ai préparé un petit pitch.
En fait, il voulait grave le faire. Il jubile. Et bah ouais.
Angel, pour ceux qui sont pas au courant, Angel qui est une agence de détectives privés avec Wesley et Cordelia. Donc il aide les désespérés, help the helpless, hein, comme c'est leur slogan en fait, aider les désespérés en gros, c'est un peu ça.
J'ai l'investigation.
Et souvent ils combattent donc des démons, hein, pour aider les gens, pour aider les humains ou d'autres démons. Hein. Et au cours de ces investigations, il va rencontrer Kate. Kate, c'est une jolie blonde qui botte des culs la nuit.
Ça arrive même à l'épisode 2, je crois.
Il y a un parasite qui passe de corps en corps,
en baisant.
Ouais.
Et c'est. Ah oui, c'est le deuxième.
Ouais. C'est passé pour une.
Oui, dans la boîte où ça se passe dans la boîte.
Toast, je crois.
Et elle est en planque en fait pour retrouver ce tueur en série.
C'est ça. Et elle croit que c'est Angel.
Ouais. Et donc Kate, une blonde qui botte des culs, ça vous le rappelle rien? C'est bien évidemment une référence à Buffy.
C'est un peu la Buffy du pauvre.
Voilà.
On se retrouve dans Mega Shark.
Ils lui mettent Kate dans les pattes. Ça c'est intéressant parce que du coup, comme Buffy, il peut pas avoir de relation physique avec elle. Mais bon, ils sont amis de ça. Et surtout Kate est flic. Elle a un père qui est flic aussi. Et un père qui va apparemment s'embarquer dans une histoire un peu compliquée, une histoire mafieuse de drogue, on sait pas trop. Angel va mener l'enquête et va faire découvrir à Kate le monde des ténèbres, le monde de l'occulte qu'elle ne connaît pas, elle simplement.
Qu'elle apprend à découvrir comme depuis quelques épisodes.
Elle va apprendre à découvrir ça.
Elle va apprendre l'occulte avec Angel.
Voilà, elle va apprendre beaucoup de choses. Ce beau brin donc qui s'appelle Angel va essayer de l'aider et va lui faire découvrir son monde.
Très très long ce pitch.
Est-ce que je peux lancer l'épisode en 1?
On va faire un jeu à boire, essayer de boire autant que Liam dans l'épisode.
À chaque fois qu'il met un ion, on boit un coup. On est prêt. Riley, vous êtes prêt ou quoi? En vrai, vous êtes prêt, Riley?
Je suis prêt, oui.
Allez, attention. Alors, munissez-vous chez vous. Voilà. Chez vous. Munissez-vous de vos télécommandes, de votre souris, de votre.
Plus la touche Telex.
De n'importe quel ustensile qui vous sert à lancer un épisode de Angel.
Tapez 3615. PBCG.
Ça marche aussi. Attention, 3, 2, 1. Donc on est sur l'épisode, attention, Prodigal, on est d'accord.
DVD 4, hein, bien sûr, chez vous. Attention.
Épisode 15 et
le DVD 4 dans le coffret.
Nettoyez-le avant de le mettre, parce qu'au cas où il y a de la poussière, c'est important.
Attention, 3.
Si vous ne le regardez pas en DVD, c'est pas grave.
Vous pouvez appuyer sur play sur votre souris.
Espace.
C'est possible.
Attention,
sur 3, YouTube, il y aura l'épisode. Donc,
2, 1, taupe. C'est parti, je lance l'épisode. Ouais, j'en ai rien à foutre, je lance l'épisode.
Allez, c'est parti.
Et c'est parti, ça commence.
Ah, du soleil.
Ah, c'est beau.
Riley, raconte tout, qu'est-ce qui se passe?
Alors, on est en Irlande, figurez-vous, à Galway, en 1753. Ça commence un peu comme une pub à laitière. Et c'est un flashback, et on va découvrir Angel.
Dans le coin, là-bas?
Dans le coin, dans l'ombre, comme d'habitude.
Hein. C'est aussi un début de porno. Hein.
Il passe son temps dans l'ombre, Angel, et il demande à Anna, comme Anna, viens...
C'est complètement vrai.
On a tout de suite le sentiment qu'il va la bouffer. Hein. Là, on se dit qu'à cette époque-là.
Il est dans l'ombre, donc on se dit que c'est
un Angel. C'est Angelus et que.
Exactement.
Donc il s'apprête à bouffer Anna. Et finalement.
En fait, non.
Voilà.
Ça joue sur nos attentes, en fait.
Ça joue en sur fait, nos attentes, complètement. Et puis, la dernière fois qu'on avait vu Angel dans un flashback, c'était dans Becoming, dans Buffy, finale de la saison 2. Et, où on voyait Angel devenir un vampire. Voilà. C'était.
Oh la vache, on dirait. Attendez, la Downton Abbey, ça change tout le temps.
Le père de Angel, voilà, qui a désamorcé la situation en poussant Angel dans la lumière, en fait. Donc, il n'est pas vampire, il est juste.
Angel s'est fait
bouleverser. Humain à la gueule de bois qui revient de soir. Bim, ouais, bim, il s'en prend une. Alors, et donc, voilà, on est d'accord, il s'en prend une.
Ouais, mais c'est l'éducation à l'ancienne, ça.
Voilà, 18e siècle, les gars. Vous êtes vraiment des gars, vous êtes nés au 20e siècle. Hein. Alors... Franchement, ça, sérieusement.
Attends, transition à la Indiana Jones où il parle.
Voilà, et sur un coup de poing, Angel se rappelle. Et donc on est dans le métro avec le.
Angel. Les combats bastonnent plus dans Angel que dans Buffy, je trouve déjà.
Carrément, et ouais, exactement. Et c'est un peu plus violent dans Angel. D'ailleurs, c'est de plus en plus violent dans toutes les séries de Joss Whedon.
Ouais, alors surtout deux choses.
Dans Dolavs, d'ailleurs, les bastons sont géniaux.
Deux choses à noter très importantes. On a appris que Angel s'appelait Liam. Ça, on le savait pas. Hein.
Ouais, on le savait pas dans Buffy.
C'est la première fois.
C'est une invention de la série.
Petit fan service.
Et on a appris qu'Angel, après 250 ans, n'avait toujours pas réglé son problème oedipien avec son père. C'est-à-dire que quand se battant avec des démons, il pense à quand il se battait avec son père. Donc voilà.
Est-ce que c'est un flashback intradiégétique ou extradiégétique? Est-ce qu'Angel pense au flashback ou est-ce que c'est un flashback imposé que seuls les.
Vous avez alors là, moi, je pense que.
On va comprendre par la suite que c'est diégétique, ouais.
Bah, parce qu'on le voit dans le bureau, une transition. Donc là, on est avec Kate, qui est la blonde de Angel, hein, la première blonde. qui est. Bah, en fait, c'est parce que c'est Buffy, une sorte de sous-Buffy. Qui est là le love interest de Angel au départ, mais en fait pas vraiment. Qui va découvrir avec lui, on la connaît depuis l'épisode 2 avec un démon parasite dégueulasse. Et,
sur les MST, oui.
Voilà,
c'est ça. L'épisode c'est, MST.
C'est une sorte de métaphore sur la MST. Et donc elle apprend avec aux côtés d'Angel de plus en plus à découvrir le monde des ténèbres. Elle vient d'ailleurs d'apprendre que c'était Angel était un vampire.
Ouais, elle a pris de 2-3 épisodes.
C'est habitué encore.
Et là, elle a fait une vanne comme dans les experts Miami.
C'est vrai que le fondu, c'est genre Horatio Kane. Quoi.
Mais complètement. Générique de Angel, parlons-en.
Bah, il est nul.
La musique est
vachement mieux.
Ouais, il y a des violons. C'est un peu plus.
Non, en vrai, la musique est bien quand même.
Ouais, la musique est cool. Ouais. C'est le cadre après sur le nom des acteurs qui est un peu particulier. Quand même.
Là, jusqu'ici, ça va pas mal, on est bien. Et là, voilà. Bon.
Et puis la musique est un peu plus tragique. Avec le violon, c'est un peu plus. Ouais, c'est tragique. Hein.
Ah, c'est Angel, quoi.
Comme Angel, ouais. Comme le ton de la série qui est beaucoup plus sombre.
Mélancolique.
Que Buffy. D'ailleurs, il y a plein de
plans.
Charisma Carpenter. Donc il y a des plans qui sont tirés de la série Buffy. Alexis Denisov qui vient d'arriver depuis l'épisode 10, qui n'était pas là au départ, il était joué.
Qui remplace Doyle un peu.
Qui remplace Doyle qui s'est sacrifié, hein, qui était joué par Glenn Quinn, on l'a dit tout à l'heure.
Le plan de sortie est classe du générique, j'aime bien moi.
Ah, ça c'est pas mal. Bah, ça donne l'identité un peu de la série. Voilà. Quand on pense à Angel, on pense beaucoup à ce plan dans la rue sombre, le mec tout seul avec son long manteau, détective privé quoi.
Détective privé, voilà. J'étais inspecteur, mais je me suis couru.
Voilà, Kate, elle joue très bien, elle a du mal, avec les trucs fantastiques, elle n'est pas encore habituée.
C'est pas le meilleur perso
d'Angel. C'est tout l'intérêt aussi du dialogue qu'on a vu juste avant, où elle parle avec l'agent de police, qui lui dit « Ouais, mais non... »
Qui ferme les yeux, en fait.
Et en gros, c'est ça. Il y a une police qui ferme les yeux, on nous l'a dit dans Buffy, on nous l'a dit dans l'épisode 2 de Buffy, Angel explique que les gens qui n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils voient, ils ne veulent pas le voir, ils ferment les yeux du coup, surtout les...
C'est un thème récurrent ça dans Buffy Angel.
Ouais, sur les événements que tu ne peux pas expliquer, tu fermes les yeux, tu fais comme si ça n'existait pas, l'agent de police lui ne veut pas expliquer et Kate dit carrément, ah ben si, moi je vais y aller, carrément, moi je vais rentrer là-dedans, je veux savoir ce qui se passe.
Et ça devient dans la série, dans son commissariat, la meuf présupposée au cas chelou et du coup elle est un peu ostracisée par rapport à tous ses collègues.
Exactement.
Ouais, c'est un peu la
Fox
ça.
Mulder.
Ouais.
Et elle, on la voit jusqu'à la saison 2 ou 3, Kate.
Saison 2,
saison mais après, 2, où elle finit mal un peu. Elle s'est suicidée.
Exactement, elle finit plus que mal. Ouais.
Et là, Angel le dit clairement. Angel, il dit People can see what they need to. Et ils veulent voir seulement ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent voir que ce qu'ils veulent. Sous-entendu, ils ne peuvent pas voir ce qu'ils n'ont pas envie de voir. Et c'est exactement ça, les gens se voilent la face.
Et mais... ça dans Buffy, ouais, c'est de... il
Jack
la même réplique.
Moment, dans...
Jack se dit dans Buffy.
Exactement.
La
donc,
même réplique,
ouais. donc là, en gros, Kate va faire son apprentissage. Du monde des ténèbres qu'elle ne connaît pas, à la manière de d'Alex et de Willow dans le premier épisode de Buffy, qui vont plonger dans cet univers et Giles va les guider dedans. Là, c'est Angel qui va guider Kate dans cet univers des démons qu'elle ne connaît pas.
Ça va faire mal, plus que dans mes films.
Ah, elle va en chier. Ouais.
Donc, vous avez vu le petit mec au arrière-plan avec son costume chiant là.
Une veste très très verte.
Donc le père de Kate hein, qui était là par hasard, hein, elle se pose la question, qu'est-ce que vous foutez là? Oh, j'étais là, tranquille.
Tranquille, je me baladais, hétéroclite.
Donc c'est un peu gros quand même, enfin, c'est comme par hasard on a vu le père de Angel, maintenant on va voir le père de Kate un peu mis là.
Et
c'est
sur les pères.
Ouais, c'est un épisode sur les
deux de pères,
Favor issue, comme on dit.
Ouais,
les problèmes avec les pères, on l'a vu de toute façon dans l'épisode, il y a quelques épisodes où justement le père de Kate partait en retraite et il y avait un sort qui était jeté sur les policiers. On a vu que Kate avait des petits soucis avec son père de dialogue par rapport.
Angel avait été avec elle à la fête.
C'est ça. Donc ils se connaissent déjà et on sait qu'il y a un passif et que Kate a des petits problèmes avec son père.
En plus, le pire, c'est que Kate, quand elle apprend à connaître Angel, elle veut un peu le pécho au début.
Mais oui, quand même,
avant de savoir que c'est un vampire.
Bah elle doit gérer avec le fait que c'est un vampire et avec le fait qu'elle voulait le pécho et qu'elle peut plus. Donc ça fait beaucoup à gérer quand même pour une seule femme.
Oui, surtout que là, ils font un parallèle entre l'affaire en cours, l'affaire judiciaire qui est sur laquelle ils travaillent et leur relation à eux, en fait. Et j'aime bien le parallèle, le mélange des genres, le parallèle qui est fait entre les deux relations.
Priorité directe, il y a Darla.
Il y a une baston en plein flashback.
Julie Benz, magnifique, Angel. Magnifique Julie Benz.
Il y a, mais bien classe quand même, là. Il a la belle vie, quoi.
Liam est en train de tabasser du poivreau.
Il se régale, apparemment.
Un beau cliché d'Irlandais.
et l'échange entre les deux nanas, donc qui parlent de Angel qui est en train de tabasser des mecs, et c'est super intéressant. Elles nous disent, en gros, qu'Angel était quasiment déjà un vampire avant d'être transformé en vampire.
Il était présupposé à devenir. Ouais.
Mais ouais, elles sont en train d'expliquer qu'il adore être, il adore la nuit, il adore raconter des bobards aux jeunes filles pour les mettre dans son plumard, il adore toutes ces choses là qui font la personnalité d'un vampire. Et en gros, Angel était un peu déjà comme ça. Enfin, c'est un petit flashback très rapide, mais ça nous dit en gros ça. Il a des prédispositions. Merci les gars. Pour ça. Mais priorité direct, on est dans
là,
le
on
bureau.
Est dans un épisode de Buffy, non? Il y a un faux Giles qui monte des livres de.
Où il y a des démons dessus.
Il y a des démons dessus. C'est comme dans Buffy.
Alors, un faux Giles qui s'appelle Wesley.
Donc. Qui est un ancien observateur. Donc, qui est
et qu'on voit dans Buffy déjà, de toute façon.
Oui, dans la saison 3, il est l'observateur de Faith, en fait.
Wesley Wyndham Price.
Il se fait virer du conseil et il devient une sorte de chasseur de démons un peu nul.
Un peu nul, mais qui devient très fort au fur et à mesure. Parce que là, il fait un peu de chef.
Voilà. Là, il sert. C'est vraiment là pour l'instant un sous-Giles hein, qui sert pas à grand chose d'autre que faire avancer l'enquête.
Il est pas mauvais quand même, sous-Giles. Il est bien.
Et puis tout à l'heure, on va le voir faire mais une dissection, fonctionne. C'est très drôle.
Voilà, mais il a la même fonction.
Ils reprennent les mêmes structures en fait. Buffy, la structure Buffy, la marque Buffy a fait ses preuves. Là, c'est un spin-off. Donc, on reprend les mêmes formules. Le héros, donc Angel à la place de Buffy, entouré de ses amis, donc l'intello anglais Wesley à la place de Giles. Et voilà un personnage un peu marrant, un peu décalé, en rapport avec le monde humain, le monde concret, qui est incarné par Cordelia, qui pourrait être Xander dans Buffy. Exactement. On reprend la même formule en fait.
Parce que là, ils lui ont donné des pouvoirs à Cordelia, qui a des visions maintenant, ce qu'elle n'avait pas au début de la série. Doyle lui a donné. Donc, ça lui donne aussi une importance un peu magique.
Mystique.
Tout à fait.
C'est le lien de Angel.
Ce qui va lui causer un peu sa perte, parce que Cordelia va évoluer et puis un peu disparaître. C'est un peu
mal finir dans la série. Elle est très mal gérée à la fin.
Dommage.
Donc là, priorité directe, Angel essaye de convaincre la petite Kate qui se passe des
jour,
trucs démoniaques en plein
Kate,
jour.
Tranquille, en plein
il
soleil.
Il se déplace en plein Angel, jour. Attends, on a vu un micro. Perche encore. Bon, je pense que là, il y a eu un petit souci, mais bon, on a vu un micro dans le champ, c'est pas grave.
Angel raconte qu'il se passe dans le métro. Il se déplace dans le métro, c'est ça?
Bah, il se sert des égouts en fait.
Les tunnels des égouts.
Ah oui, c'est mieux.
Et c'est très bien expliqué pendant les premiers épisodes de la série.
Là, il est en plein soleil.
Je me demande si ce serait pas mieux effectivement le coup du métro. Enfin, moi ça m'a perturbé.
Mais c'est pas grave. Il faut bien trouver une excuse pour faire.
Mais c'est ça le problème. C'est le fait que se retrouver. Pour, comme excuse,
il dit, il pourrait prendre la ligne 6 et il serait bien.
Bah, justement, il évite la 6, tu vois. Alors,
pas la 6, mais bon.
Mais ça va devenir un code de la série en fait. Ils mettent en place ça. Angel se déplace dans les tunnels, même parfois on le voit. Dans ces fameux tunnels, on le voit faire des choses.
Ça fait un exemple pas cher.
C'est un Tortue Ninja.
Voilà.
Ils en parlaient aussi dans Buffy de cette règle, cette règle entre guillemets.
Ah bah ça on le sait que les vampires peuvent pas balader le jour.
D'accord, mais que Angel est un spécialiste des égouts et qu'il peut sortir parce que là il a l'air.
Mais il y a
jour,
même dans un épisode avant.
Ouais, mais là ça marche pas, c'est pas une lumière directe du soleil.
On le voit même.
C'est que la lumière directe.
On le voit même regarder le plan des égouts du métro, des égouts de Los Angeles avec Wesley pour dire ah là je peux pas y aller parce qu'il y a pas de voilà.
C'est un changement.
C'est un code de la série.
Là, on est dans la partie polar, hein, donc enquête spécialité de Angel. Et donc Angel est dans sa voiture, il observe et il. Et il y a. On a raté une très très drôle vanne avec Cordelia.
Non, mais très drôle. Et, ouais, surtout, ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est
que. Wesley dit les femmes, elles ont perdu fantastique, et là, on voit Cordelia en fait, ouais, qui découpe un cadavre.
Ça, c'est dommage. Et vous voyez, et l'utilisation du portable, c'est super important, l'utilisation du portable. Ouais. Ça, c'est un peu rappelé à la manière de Mulder et Scully, comme il y avait à l'époque dans les X-Files. Le portable, c'est un truc qui a été trop oublié dans Buffy, moi, je pense. Et
c'est vraiment pour que tu le dis.
Et oui, et c'est pourtant c'était l'époque où le portable se démocratisait. Et même des scénaristes, moi je me rappelle d'un scénariste que j'avais vu en conférence qui m'avait expliqué que le portable avait changé la manière d'écrire des scripts. Parce que maintenant tu peux plus avoir deux personnages qui ne connaissent pas une même info. Parce qu'on sait qu'ils peuvent s'appeler et tout à tout moment. Et voilà, et dans Angel, par contre.
Angel aurait tweeté.
Ça, c'est avant 24.
C'est avant 24. Mais, et surtout, Angel a très très bien utilisé le portable dès le début. Avec des personnages qui
communiquent. Ça rentre vachement dans le code du polar, justement, du détective.
Exactement, beaucoup mieux que
Buffy. Il est en filature et ça va revenir très souvent dans Angel.
Ah, les scènes de filature, il y en a plein.
De filature, ouais. Ce qu'il n'y a pas dans Buffy, finalement.
Beaucoup moins.
On a aussi vu qu'Angel avait une voiture décapotable, hein, bien sûr.
Mais oui, parce que c'est un accessoire obligatoire pour un détective privé.
C'est la voiture décapotable.
Bah, bien sûr, un détective.
Pas forcément.
Bah, on prend une.
Mais ça va, veste en cuir décapotable.
Jack Nicholson dans Chinatown, il a sa voiture. Il passe son temps dans sa voiture. On est d'accord.
Mais pas forcément que ce soit décapotable.
Oui, il met la capote parfois, les gars.
C'est la veste en cuir, ça par contre, c'est obligé un petit peu.
Non, il a un look de. Même un peu de super-héros, bah, d'ailleurs on le verra tout à l'heure quand il s'équipe. Mais
ouais.
C'est, première saison, c'est une sorte de Batman avec son look chevalier noir. Quoi.
Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu la pub.
Ouais.
C'est dans Clément, tu devais l'annoncer, non?
Oui, mais oui, mais vous parliez, j'allais pas vous couper la parole, voyons.
Donc on a eu la fin de l'épisode 1, et forcément à la fin de l'épisode 1, il faut qu'on ait compris de quoi parle l'épisode, faut qu'on voit de quel est le méchant et tout, et on a vu.
On a des soupçons sur
le père de Kate.
Le père de Kate récupérer un colis suspect, effectivement. Voilà. Donc Angel est très très inquiet pour Kate. Et donc conversation surréaliste entre Angel. Qui ne peut pas rentrer dans l'appartement du père de Kate, et le père de Kate qui lui explique mon petit bonhomme, toi t'es pas papa, hein, tu vas te détendre. Moi je suis papa.
Tu te calmes.
Moi je sais ce qui est bien pour ma fille, donc c'est pas toi qui vas m'apprendre tout ça. Et c'est là qu'on a le thème de l'épisode, le retour du thème, la relation père-fils ou père-fille. Qu'est-ce que.
Angel n'est pas beaucoup évolué de ce côté-là, il est toujours vachement.
Exactement.
Agressif.
Mais ça, c'est ça qui est bien. Après 250 ans, Angel est toujours ce petit jeune énervé là qui. Mon père, c'est un con, je l'aime pas, moi je veux voir la vie, je veux faire des choses. Et tout
ça change saison 3 quand
Angel n'est jamais sorti.
Exactement, il devient père.
Et bim, il se prend la porte en pleine gueule.
Bon raccord. Et donc là, on est reparti dans un flashback avec son père qui lui. Bah, Angel se rebelle et il se barre. C'est pas que son père le vire, c'est Angel qui part en fait.
Oui, oui, ouais, c'est Angel qui part.
Tu m'as trop fait chier.
D'ailleurs, le père, c'est G. Kenneth Campbell qui joue dans un film Waxwork de 1988. Pardon. Je sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Hélas, non.
Et ben, ne le voyez pas, hein. C'est horrible. c'est. C'est un film qui reprend les figures du fantastique avec le Marquis de Sade qui est joué donc par G. Kenneth.
Marquis de Sade, c'est fantastique.
Mais il y a aussi, il en fait une sorte de maître fantastique horrible. Il y a aussi des vampires évidemment, des loups-garous. Il y a John Rhys-Davies en loup-garou.
Ouais, très bien.
Excellent.
Gimli,
la classe.
Gimli, Sliders. Mais c'est même pas marrant en fait. Il y a juste les décors. Sinon, c'est nul.
Très bien, mais avant toute chose, cette scène est quand même une scène miroir de la scène juste avant. Voilà, une confrontation au père. Angel est confronté au père de Kay dans la scène juste avant, au pas de la porte. Et là, pareil, il est confronté à son propre père.
Faire une théorie des portes.
Au moment où il veut prendre sa porte, les portes sont très importantes.
C'est vrai que là, le seuil
dans l'univers de Buffy. Et voilà, il part.
Il prend la porte.
Il prend la porte.
C'est toujours rare de le voir en plein soleil. Il n'est tellement pas habitué que j'aurais fait un petit choc.
Et non, mais oui, c'est important.
Un épisode de la première saison de Angel avec Buffy où il est en plein soleil, il redevient.
Il y a eu une transition
pour une journée.
Le fait de passer cette porte n'est pas anodin. Il fuit le foyer familial. Il va vers l'autre monde, le monde des vampires.
Là, c'est le flashback qu'on voit dans Becoming, donc fin de Buffy.
Donc là, ouais, on a
Buffy saison 2 où Angel. devient vampire.
Bah, on a un montage de plein de choses.
Avec Darla, ouais.
Effectivement, on a des plans qu'on avait vus dans Becoming, mais des plans aussi qu'on n'avait pas vus. C'est un montage pour nous montrer comment Angel est
devenu vampire. Ouais.
Mais sans nous montrer toute la scène, parce que la scène, on l'a déjà vue dans Becoming, dans Buffy.
Si tu regardes que Angel, est-ce que tu.
Moi, j'étais un peu perturbé. Ça, ça fait un peu effet de style, mais ça passe.
Voilà, ouais, ça passe.
Ça fait un peu comme un previously, en fait, comme si on te montre pas tout.
C'est
quoi.
Vrai,
c'est monté comme ça, ouais.
Mais oui, mais vu que l'intrigue principale elle est là dans le présent, à la rigueur c'est pas très gênant.
Mais en fait les flashbacks sont plus importants je trouve dans cet épisode.
Mais alors non, je regrette qu'ils soient pas plus développés. Ouais.
Car c'est fait, c'est développé tout au long de la
et
série.
Parce que la vraie question c'est est-ce qu'il y a des gens
dans la série
est-ce qu'il y a des gens qui regardaient Angel qui n'avaient pas vu Buffy, c'est ça la vraie question.
Angel, ça doit avoir trop Buffy en tête.
C'est ça.
Voilà.
T'as un exemple. Par exemple. C'est pour ça qu'on t'a invité.
L'exemple.
Mais ouais, sinon je vois pas, hein. C'est vrai que.
Bah oui, parce que. Oui, je pense que
c'est comme ceux qui lisent les comics, ils sont obligés d'avoir.
C'est ce qu'ils sont dit au moment de faire cet épisode. Est-ce que voilà, les gens connaissent cette scène de la transformation d'Angel?
Ça fait toujours un petit clin d'œil sympathique, ceci dit.
Tout à fait.
Ouais.
Donc là, scène de hot dog sur le port entre père et fille.
C'est la plus belle scène de l'épisode.
On voit une relation plus saine entre père et. Enfin, une relation de père-fille, père-fils plus saine déjà, là, un petit peu.
Bah oui,
il s'intéresse à sa vie, alors Angel, blablabla. Enfin, c'est un peu insidieux, un peu insidieux.
C'est plus léger.
Et puis il fait une remarque marrante, il demande des infos sur Angel à Kate et il lui dit attends.
C'est pas bon la jaquette.
Angel, il lui dit est-ce qu'il serait pas un peu de West Hollywood? Voilà, et West Hollywood. Alors j'ai mené mon enquête, hein. West Hollywood, ce serait un quartier homosexuel un petit peu de Los Angeles.
D'accord.
Ça rappelle les moqueries de Spike sur Angel et son gel à cheveux.
Donc le père de Kate est homophobe direct.
Donc c'est ça, c'est une manière, c'est une manière de lui demander si Angel n'est pas homosexuel.
C'est un vieux flic, quoi. Tout
c'est un vieux flic bourri, donc forcément il est homophobe, hein. C'est le package.
C'est bien écrit.
Ça va ensemble, hein. C'est toujours un peu comme ça.
Mais pourquoi pas?
Mais surtout, voilà, on vous répète.
Kate a vraiment impressionné son père en chantant, elle est toute là, toute mignonne. Oui, papa, tu penses quoi de...
Ouais, c'est exactement. Elle lui demande la permission à son père de sortir avec Angel, quoi. C'est un peu bizarre.
C'est pas ça, c'est.
Bah non,
ça
mais sûr, c'est pas ça.
Bien,
c'est sûr. Non, mais.
Non, c'est lui qui mène l'enquête un peu.
Ouais, elle serait tellement contente si le père aimait bien Angel.
Il faut l'impressionner.
Bah ouais. Genre, ouais, c'est un bon enquêteur, tout ça, il est très très bon dans ce qu'il fait.
Ah, Wesley, dans son travail, c'est une cuisse de poulet.
Voilà.
Donc là, c'est un peu la partie comique. C'est vrai que Angel, c'est pas très marrant, et du coup, les persos secondaires sont là un peu pour faire un contrepoids avec les.
C'est un peu les experts, mais version.
version rigolo. Ouais.
Mais là, comme c'est filmé, enfin, tu vois, c'est pas un gros plan sur le truc. Enfin, tu vois.
Angel, mais si, ça commençait en gros plan sur le truc, ça a bougé la caméra.
Non, un gros plan. C'était déjà.
Non, mais la mise en scène d'Angel, c'est un peu moins poussé que dans Buffy, quand même. Et là, ça, je crois que c'est vrai jusqu'au bout de la série. Il y a pas de.
Oui, ça, on peut reconnaître facilement.
C'est fadou là, quand même. Tu vois.
Et moins bossé la mise en scène.
Pour le côté humour ou pas, il faut voir aussi un truc. Buffy était à la base une comédie. Qui petit à petit s'est dramatisé, on peut dire. Et Angel, c'est ça l'inverse. C'était à la base une série extrêmement sombre, extrêmement.
Il rajoute des bouts de comédie dedans, ouais.
Et voilà, et dans cette série sont incorporés parfois des petits morceaux de comédie. L'accoutrement de Wesley dans cette scène.
Ouais, c'est rigolo.
Est une touche. Est une touche d'humour. Et l'intervention de Cordelia plus tard. Va en être
mais
une
Angel
autre.
Angel joue beaucoup sur le décalage entre Angel qui est vachement sérieux et qui est triste et qui est de
exactement,
ans,
ouais.
Et toutes les situations qui lui arrivent qui sont vachement cheloues et qui n'ont rien à voir avec lui et ce qu'il fait. Ouais. Sa froideur joue un peu comme ressort humoristique, comme Hitman dans les jeux vidéo pour ceux qui connaissent.
Mm-hmm. Mais oui, Angel est tout le temps le personnage un peu froid, renfogné, qui dit rien, qui laisse rien paraître. Et au milieu de ses amis un peu foufou, un peu qui mettent. Et
puis un Cordelia qui arrive en blonde,
qui mettent les bandes de potes.
Voilà, qui mettent les pieds dans le plat. Forcément, il y a des ruptures, il y a de l'humour.
Là, il se moque un peu des codes de la des séries policières avec Cordelia qui lui balance qu'il peut pas suivre les gens la journée, quoi. Du coup.
Ouais, c'est vrai. Pour un détective, c'est moyen.
Elle a une caméra vidéo
qui fait des photos donc.
Non, mais j'avoue, ça revient avec le téléphone, les gars étaient high tech dès le début quoi.
Bah ouais.
Bah, c'est ça les séries policières, et il faut oui, être voilà. À jour,
bien sûr. À la pointe.
Et c'était une invention du futur, c'est ce qu'on est en train de voir à l'époque.
Le mec qu'on voit tout à l'heure, le livreur a vraiment une tête de témoin dans New York Unité Spéciale, je trouve.
j'ai regardé sa filmo tout à l'heure, il a pas fait grand chose.
Il a fait que des témoins dans les séries policières.
Ouais, c'était son meilleur rôle, je crois. Donc là,
fin de l'acte 2.
Ah oui,
code des films de mafia.
Là, on se demande si c'est pas Wolfram et Art, justement, ces vampires, non? Enfin, on sait pas que c'est des vampires.
Ils ont des looks d'avocats, en fait.
Ils ont des looks d'avocats, ouais. C'est pareil.
Attends, c'est marrant parce qu'ils te font penser à des vampires, quand même.
Mais c'est un code pareil de la série policière, c'est des mafieux qui gèrent le business.
Mais code d'Angel, beaucoup de démons sont en fait soit des avocats, soit des mafieux. Enfin, c'est jamais juste
c'est des figures
démons,
comme
en fait.
Ça de la
ils
loi.
Ils sont toujours intégrés dans la société, les démons, dans les ennemis.
Oui, mais c'est ce
qu'on... Ils sont pas cachés comme dans Buffy.
Dire, exactement. Dans Buffy, les figures d'autorité, c'était souvent
le maire qui
les parents,
un méchant, un
ou le maire, ou les profs dans le lycée, c'était ça les figures.
Là, c'est l'État.
Et dans, voilà, dans Angel, qui est une série beaucoup plus adulte, les figures d'autorité, et qui sont souvent équivalents au mal, ça va être la police, ça va être le comment ça s'appelle, les avocats, les juristes, tout ça.
Ou nazis en l'occurrence.
Voire même les dieux, parfois les dieux vont être très vilains dans Angel.
Il a un uniforme un peu étrange quand même.
Non mais il est bizarre ce méchant.
Ouais, là le démon.
En plus, il a une voix de merde.
Le démon qui fait du trafic de drogue, il est très très étrange. Donc fin de l'acte 2.
Ouais. Où là. Enterrement, une scène assez géniale, hein, l'enterrement de Angel.
On débute de Liam. L'acte 3 avec l'enterrement de Liam.
Donc là, c'est un long flashback.
On est en 1753, donc.
C'est un long flashback et c'est toute la naissance
aussi
de.
C'est en anglais, bien sûr.
Tout à fait.
Toute la naissance de Angel,
fort
c'est la naissance
en
de vampire. Où Darla va venir le chercher. On voit son père d'ailleurs qui va pleurer. Je pense qu'il est pareil. Là, il est en train de. Il est très triste.
Il pleure, oui.
Il est très très triste. Et là, il encaisse très très bien.
Ouais,
s'il y a une ellipse ou pas, ou c'est
y a
bizarre.
Un souci de raccord. Non, mais oui.
Il est pas du tout.
Il pense à demain, il fait.
Non, mais c'est clairement, il voulait un plan large. Et ouais. Dans le plan large, il l'avait pas en train de faire la gueule. Donc, ils ont été obligés de mettre le plan large où il pleure. Et voilà. Ça marche pas. Mais là, il fait nuit.
Et là c'est parti, donc plan Evil Dead, hein. Clément, ça va te plaire?
Non, justement, pas tellement. Parce que
c'est un plan plus vieux.
Je vais trouver, il y a d'abord Darla qui arrive.
Ouais.
C'est un plan plus vieux qu'Evil Dead, mais c'est iconique, ouais. Dans tous les films.
Voilà, non, mais c'est ça, il est plus iconique, qu'Evil Dead. Enfin, on va voir, il est pas encore. Bref, en attendant, Darla le cherche. Où es-tu, Angel?
Ça rappelle quand Buffy se bat dans les cimetières, la petite fille fragile.
Sauf que là, c'est moins sportif. Et donc voilà, alors ce plan, il est complètement. Il n'est pas forcément Evil Dead, il est tout mort-vivant qui se respecte, je pense. Depuis Thriller, le clip de Michael Jackson. Bref, et il est tout, ouais, voilà. Et du coup, Angel, effectivement, né ici, maintenant, c'est beau.
Ouais.
C'est bon.
C'est dommage que Darla va préciser.
Non, mais c'est clairement une naissance.
Painful,
on dirait presque c'est Bambi, carré. Tu sais, c'est clairement la petite chose là qui sort là, qui sait à peine
Bambi,
marcher. Qui
et elle le regarde. Oui, je sais ce que tu veux dire.
Elle Bambi, le voit comme une mère, le fils prodigue, hein, prodige. On y revient. Hein.
Voilà, donc il atteint son but.
Donc là, il respire, hein, les vampires. On est d'accord, non, ça respire pas. Hein.
Ah c'est mais ça sert à rien, faut qu'il s'habitue, tu sais, il vient juste de mourir, il sait pas encore.
Non, je crois que le scénariste a dit qu'il s'était planté.
Non mais oui, on voit ouais. Effectivement de la fumée, de la vapeur sortir de la bouche des comédiens.
Et en fait, Spike qui fume, donc il
non, mais... Et faut savoir que dans l'univers Buffy, normalement, les vampires n'ont pas de souffle, donc là il y a un souci. Et Tim Minear a expliqué qu'effectivement il s'est rendu compte de ça, et ils auraient bien voulu effacer numériquement ces petites vapeurs de souffle, sauf qu'ils avaient plus le budget et c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait.
Okay.
C'est pas très très grave non plus.
Première victime de Angelus, hein, donc.
Qui s'appelle pas encore Angelus.
Qui s'appelle Liam le vampire.
Liam the Bloody.
Là on est très inspiré Anne Rice, hein, quand même, les entretiens avec un vampire.
Mais complètement, pas,
c'est l'influence principale pour Angelus.
Bien sûr.
Même pour Buffy aussi de toute façon.
Enfin, ah tu crois? Non. Non, pour le perso d'Angel, pour la mythologie vampirique, peut-être dans,
ouais,
dans Buffy.
Dire.
Mais
c'est
voilà,
ça
c'est d'assez. Voilà.
Voilà, se transformer en vampire, c'est ouais. Vachement.
Et puis pour le côté vampire amoureux, tout ça.
Voilà, hein.
Le choix d'époque aussi de naissance des personnages. Enfin, c'est pas anodin.
Elle est fière de son fils.
Et voilà.
Il enlève les roulettes.
Les stats, il a marqué.
Ouais, bah là, c'est carrément les stats. Ouais.
Il a fait des émules.
Les stats ou Brad Pitt, un peu. Je sais plus comment il s'appelle, Brad Pitt. Entretien avec vampire.
Je sais plus, Gaspard, Gustave.
Gaspard.
Non mais sérieux.
Gaspard le vampire.
C'est pas Gustave.
Il s'appelle Yann. Comment il s'appelle? Brad Pitt dans.
Dites-le nous sur le chat,
s'il vous plaît.
Le chat qui est inactif. Hein,
Ah oui, non, pardon.
Il n'y a plus internet.
On voit qu'il
n'y a plus internet.
On nous avons zéro auditeur.
Des prérequis, et là du coup, on sent que dès direct, il a kiffé sa vie de vampire.
Alors, Cordelia qui branche en face son alarme, qui en parle depuis le début. Et ça va finalement avoir un intérêt.
Parce que cette intrigue secondaire est passionnante. Donc, c'est
passionnante.
Extrêmement secondaire. Cordelia, dans cet épisode. Dans cet épisode, elle cherche à poser une alarme sur la porte de l'agence. Hein. Elle passe son temps à ça, à faire chier tout le monde pour ça.
C'est un peu de crédibilité en fait, au truc.
Mais c'est un peu telle une maman protectrice, tu sais, qui voudrait protéger son foyer pour éviter que n'importe quelle personne y pénètre son monde ou emporte ses enfants.
Ou elle-même.
Et c'est exactement la thématique de l'épisode avec les portes. La porte que Angel prend en fuyant son foyer ou la porte que le père de Kate ne veut pas ouvrir à Angel. Et bien c'est ça. Là, Cordelia, en bonne maman du foyer, cherche à maintenir ses portes fermées.
Tu vois, moi, c'est dans ces moments-là que Sartman, je pense que tu vas trop loin.
Mais c'est ça intégrer la technologie, parce qu'on parle des téléphones.
Oui, tout à l'heure, oui, bien sûr.
On pourrait se dire pourquoi ils mettent pas une alarme. Là, ils montrent pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marcherait pas.
En plus, ça va être une alarme à démons, un peu quoi.
Une alarme pas l'heure. Si inutile que ça, vous allez voir.
Donc finalement, Kate a changé d'avis, ça va mieux. Elle est prête à faire un effort. Good.
C'est moi ou il y a que moi qui il fait penser à un mec de.
Alliage.
Non.
Tout à fait. Okay. C'est ça, bien sûr, Clément.
Oh non.
T'as marqué, il veut la croquer sur le conducteur, c'est normal.
Ouais, c'était ça en plus que je voulais dire.
Mais elle a dit I want to be involved, donc c'est
bah, exact, voilà, c'est ça. Là aussi, sous-texte.
Double sens.
C'est clair et net. Et Angel, il y va pas, il sait qu'il va la faire souffrir sinon.
Pas le macho, ça y est, un des deux mecs,
ah oui,
pas le macho.
Car, il nous sort une défense.
Tu
vas beaucoup trop loin, Clément.
Physiquement,
je suis. Ah, mais si, carrément, mais si, si, si.
Pas le macho, quoi.
On n'a pas parlé des transitions aussi entre les séquences.
Elles sont modernes.
Non, c'est moderne. À l'époque.
On est, voilà, c'est ça. Elles sont modernes de l'époque.
Modernes, même avant.
2000,
effectivement. Mais
2000, il y avait
même 24. Il y a un côté ringard. Même, je crois que c'était un peu ringard à l'époque.
Mais c'était dans le move de faire ce genre de truc, je pense.
Ah, là, il y a un plan un peu sympa derrière les.
Comme
derrière
les
Non, c'est propre. Il n'y a pas beaucoup de plans cool dans Angel. Peut-être dans les saisons suivantes, Stavro, toi qui es un gros fan.
Niveau plan, je fais jamais très attention parce que j'ai pas
le. Il y a pas le dernier plan de la série qui est génial par contre.
Si, ça fonce
vers les.
Évidemment.
Peut-être c'est le meilleur, le dernier.
Très très bon, très bon. Non mais là surtout il va y avoir une attaque de Clodo et ça.
Clodo démon.
Ça c'est plutôt pas mal.
C'est marrant parce que moi sur le conducteur j'ai la tenue de Cordelia.
Donc ça c'est. Oui, bah moi j'ai noté.
On n'est pas au même endroit.
On peut parler.
Elle est un peu moche la tenue, voilà.
On peut parler sa tenue.
C'est très moderne. Comme on l'a dit tout à l'heure, moderne.
C'est très moulant surtout.
Voilà, donc là, c'est pareil, c'est une habitude de saison 1, le cabinet Angel Investigation va se faire attaquer tout le temps
ouais, c'est vrai.
Jusqu'à exploser. Hein,
fin de la saison 1, le cabinet explose, du coup, ce qui pousse un changement de décor.
Voilà. Et excellent choix parce qu'ils vont aller dans un hôtel. Hein, ça, c'est
vachement classe.
L'hôtel est classe, ouais.
Même son histoire est classe d'ailleurs.
Ouais. Il y a un épisode dessus, ouais, c'est très cool. Donc là,
les démons sont ridicules dans ce truc là quand même.
Des démons clodo avec des fringues dégueulasses, des bonnets troués, attaque.
Parfois, les ennemis d'Angel sont classe, mais avec peu d'une gemme, et parfois pas du tout, comme maintenant.
Ouais. Non, mais ça arrive dans Buffy aussi. Hein.
Après, j'aime bien leur maquillage, j'aime bien leur masque.
Mais là, c'est vrai que c'est.
Un petit cosplay, Clément.
La prochaine fois, ouais. Carrément.
Donc là, il est au téléphone, je crois que vous avez vu, c'est comme une série policière.
Angel est sorti par la porte. Hein. On est d'accord, Angel est sorti par la porte.
Ouais.
Et là, on enchaîne sur une scène où le père de Kate ouvre la porte.
Mais tu bosses chez la paire, toi, ou qu'est-ce qui se passe?
La thématique porte, on est en plein dedans, je suis désolé.
On est en plein hashtag porte, bien sûr, chez vous.
Réécoutez le podcast Family.
Le père a cloué des portes.
Il cloue des fenêtres et des portes.
Bah voilà, réécoutez le podcast sur Family.
Donc là, Angel nous refait le coup.
Qui est à la porte.
La porte de l'ombre, encore comme au début de l'épisode et comme il fait tout le temps en fait.
Sauf que c'est maintenant le fils prodigue, c'est là qu'il revient dans le jeu.
Et voilà, ça c'est le retour, ça c'est une scène
importante.
Le retour du fils prodigue, et voilà, il revient chez lui. Sauf que dans Angel,
il faut passer par la mort.
Le fils prodigue ne se fait pas un gros hug avec son père. Le fils prodigue est allé trop loin dans le monde occulte, dans le monde étranger, loin de son foyer. Il est allé trop loin et il revient transformé. Et du coup, ça va pas du tout se passer. Comme c'est une série un peu nihiliste, un peu pessimiste, il va revenir très changé. D'ailleurs, elle a buté sa sœur, hein. Très sympa, Angel.
C'est d'ailleurs sa sœur qui l'a baptisé Angel. Tu es un ange en ouvrant la porte. C'est dommage qu'on n'ait pas vu cette scène.
Oui, non, mais c'est carrément dommage. Et puis en plus,
c'est là qu'il tire son nom.
Bah, du coup, oui, alors moi j'aurais bien voulu comprendre pourquoi il l'a tué. Et effectivement, de voir la scène, ça serait mieux passé. Parce que pour moi,
il l'a tué parce qu'il veut. Il rase.
Il table rase.
Non, mais c'est. Tu tues toute sa famille.
C'est surtout
table rase.
Pourquoi le père, quoi. C'est le deal.
Mais bien sûr, mais ça, d'accord, ok, pour l'impact, pour le message.
C'est sa petite sœur.
Enfin, pour
son ancienne vie, il renaisse.
Il fait table rase. C'est un monstre quand même.
Il fait table rase du passé.
Du passé, mais son table en marbre,
il coupe tous les liens qui le relient à son ancienne vie, à son ancienne famille. Et rappelez-vous, Spike fera pareil. On le voit dans Buffy.
Avec
un épisode crossover énorme, justement, dans la saison 2 de Angel.
En tuant sa mère, il fera aussi table rase de son passé, de sa vie humaine.
Mais oui, mais Ragger qui bute sa mère, c'est comme
Full for Love et Darla. Dans la saison 2.
Ouais. Mais enfin, c'était plus justifié pour Spike, c'est ça que je veux dire. Là, la rébellion, elle est pas assez.
Et donc Angel qui
ça manque de scène peut-être.
Comme Darla l'a proposé à Angel, Darla lui a proposé de découvrir le monde. Veux-tu découvrir le monde? C'est la phrase qu'elle lui dit au moment de le transformer. Lui dit oui. Et donc Angel il va découvrir le monde. Et en retournant chez son père, ce n'est pas du tout pour arrêter de découvrir le monde, c'est pour aller encore voir encore plus loin. Et donc il tue son père et il va continuer à voyager et à s'égarer dans cette nouvelle forme de vampire en fait.
C'est quand même un peu étrange que le père qu'on voit à l'écran de Kate, qui est censé être un flic retraité un peu bourru, ne se rende pas compte que là c'est un peu la merde.
Mais il se fait entuber tout le long de l'épisode en fait.
Il est censé être un peu malin quoi, c'est un policier.
Mais peut-être pas justement. Il est censé
là,
être en tant que.
Il s'est fait avoir, mais il a plus le choix.
C'est et ouais, et puis je sais pas, non, ça m'a pas dérangé parce que.
L'alcool c'est naufrage.
Il a son flingue.
Là il a deux doigts de prendre le flingue.
Ça c'est un peu, ouais. Bof. Mais on sait pas encore que c'est des vampires.
C'est un plan assez iconique encore du polar, hein, le flingue.
Oui, caché dans les tiroirs, mais carrément. Ça frappe à la porte, et là, par contre, la scène devient géniale avec Angel qui va se retrouver coincé.
C'est mal le point porte.
Voilà. Sarban a raison pour le coup. Là, il est coincé, il va être obligé de regarder impuissant parce qu'il n'est pas invité. Rappelle cette règle.
Voilà, il ne peut pas rentrer dans un endroit où.
C'est une des meilleures illustrations de cette règle
dans laquelle il n'a pas été invité.
Buffy et Angel réunis.
Et surtout, vu qu'il a tué son foyer, il n'en a plus, il ne peut plus rentrer dans celui des autres. Exact. Parce qu'il n'a plus de famille, il n'a plus de racines.
Le fait d'avoir tué son foyer et d'être parti de chez son père en 1753 fait que pour l'éternité, Angel ne pourra plus jamais retourner dans le monde des humains. Angel est condamné à être sur le pas de la porte comme il est là, à assister.
Sauf sur la vie.
À assister au meurtre du père de Kate.
Ouais, ça, c'est...
Il est condamné à rester dans le monde des vampires.
Ça montrait bien que Angel c'est dramatique. Hein. Les persos,
oui,
ils n'hésitent pas à buter des.
Mais c'est ça.
Belle utilisation de la règle de l'invitation.
Malgré tous ces efforts pour faire rédemption, repentance de tous ces délits, de tous ces crimes, et ben voilà, il est condamné à voir le père de Kate mourir et. Et voilà, et Kate déboule et va.
Et gros plan, là il y a un seul gros plan.
Il va détester Angel pour ça.
Et assez qu'Angel est en.
Méprise train, classique.
Mais elle lui dit, casse-toi.
C'est pas du tout ce que tu crois.
Pub, ouais, ça c'est fin. Et on reprend directement.
Sauf que je sais pas si vous avez vu, mais le père de Kate, il est pas du tout mort parce qu'il arrête pas de cligner des yeux. Hein.
Ouais, le pauvre.
Regardez le père de Kate, il cligne des yeux en permanence. Je pense qu'il est pas mort en fait.
Il savait pas, on lui avait pas dit en fait qu'il.
On lui avait pas dit qu'il
restait plus longtemps.
Il était dans le champ.
Il lui dit, non, c'est bon, vas-y.
C'est bon, je vais bien.
Donc elle rejette Angel après avoir lui fait oui, non, merci. Hop, elle le rejette encore, mais là c'est de sa faute un peu quand même.
Mais c'est pas ce que tu crois, chérie.
En fait, Angel est condamné à faire du mal à tous les gens qui l'entourent un peu comme
là, ce plan génial,
où il se recule dans l'ombre.
Il se recule et il se recule dans l'ombre. Il revient
là où il est.
Et puis le fond avec les armes, c'est bon, bah je peux pas faire du coup, bim, la violence.
Ça. On lui refuse une nouvelle fois l'entrée dans le monde des humains. Il recule vers les ténèbres. Et là tout de suite, quoi, porte. Ouverture des portes de son arsenal.
Et là, il devient Batman. Il s'équipe comme
et
un.
Il s'équipe de ses armes.
C'est souvent ça dans Angel. C'est assez iconique. C'est très important le cabinet d'armes. Et ils les prennent souvent pour avant d'aller en mission, etc.
Et il y avait l'épisode 9 où on lui demande de faire un super héros.
Mais oui, l'épisode Hero. L'épisode s'appelle Hero.
Qui veut faire un. Bah une vidéo sur.
C'est Doyle qui essaie de jouer avec les codes.
C'est Doyle, ouais. Enfin, elle demande à Doyle de.
C'est Cordelia un peu, ouais. Le teaser de cet épisode est magique parce que c'est une espèce de pub. C'est Cordy qui pitch une pub à Angel et tout. Et dans cette pub.
Le Dark Avenger.
Angel serait le Dark Avenger. Il le dit même face caméra. Il dit I am the Dark Avenger. Et voilà, c'est un épisode magique.
Plan Evanescence.
C'est le maquillage.
Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Buffy, Xander, Willow. Sont des jeunes qui ont conscience du monde du super-héros, ont conscience de ce qu'est un super-héros, et Buffy a conscience d'une super-héroïne, on le répète régulièrement dans nos podcasts. Et là, Angel, eh ben lui, non. Lui, il n'a pas ses codes. Lui, je vous rappelle, il a 250 ans.
Angel, c'est un autre code, c'est le code du champion.
C'est
le code du champion. Ouais.
Exactement. Lui,
plus Hercule, un peu.
C'est ça. Il veut bien être héroïque et tout ça, mais il n'a pas tous ses codes de la représentation du super-héros. Il ne sait pas ce que c'est.
Comics, Angel.
Exactement.
Plan FPS avec un flingue.
Ce film Doom avec The Rock, excellent.
Il y a trois quarts d'heure de séquences comme ça. Non, il y a des plans comme ça dans Doom.
Oui, une scène de 5 minutes horrible.
À 5 minutes, c'est ça. C'est très bon. Okay. Kate tue des vampires avec un pieu.
C'est la
Buffy
fois,
de dos, on dirait que c'était Buffy. Ouais.
Et c'est ça, Kate qui vient de
le
perdre.
Le démon arrive, là, elle sait qu'elle va pas faire le bois. Oh, c'est chaud.
Qui vient de perdre son père, et on se demande si
elle hésite pas à tirer le pain.
Dans cette scène où elle va essayer de démonter des démons, est-ce que c'est pas son entrée dans le monde des ténèbres à Kate?
C'est la vraie entrée avec Angel qui arrive avec sa hache derrière, ça c'est cool.
Voilà, Kate.
Il était caché derrière un poteau. Hein.
Qui se voilait la face comme un peu tout le monde, qui ne voulait pas voir ce monde occulte. Et ben là, suite au meurtre de son père, entre totalement et va peut-être finalement s'éloigner un peu de l'humanité par ses actes.
C'est très clair dans la suite d'Angel, elle s'éloigne complètement
des gens.
Mais le démon continue à faire ses pas. Je crois trouve que l'épisode est vraiment mal fait niveau des méchants.
Le méchant fait tuer comme une merde.
C'est pas le
ouais, c'est exactement. Ouais.
Mais bon, c'est dommage quand même.
Ouais, ils auraient pu développer la baston là. C'est
plutôt que de mettre des Ferrari au second plan, ils auraient pu mettre plus de budget dans les méchants.
Si un ralenti là, ça commence à devenir n'importe quoi.
Ce ralenti était nul.
Il jette sa hache, il a
ça. C'est l'arme quand même de super-héros de Angel, quoi. Le double.
Oui, c'est vrai qu'il s'en sert dès le premier épisode.
Ouais, c'est un truc, l'arme un peu iconique d'Angel au début.
Décapite le monstre, easy. Welcome to the club. Ouais.
Moi j'aimais bien. Franchement, j'ai bien sûr, ça, moi j'ai bien aimé ce petit moment. Oh, il est badass.
Mais est-ce qu'il y a, il y a des bastons cool. Ouais, il est badass Angel, et c'est un bon héros.
Mais un bon héros des années 90 en fait, badass à l'ancienne.
Ouais,
il fait des petites blagues en même temps et tout.
Un peu d'ailleurs. Highlander Richard, peut-être.
Même je dirais même Richard Dean Anderson en fait.
Ah ouais, carrément.
De Stargate, qui est un peu pareil.
Ah ouais.
Le héros romantique, tu vois, qui fait une action blague et fait je fais une blague.
Mais il fait pas trop de vannes Angel. Il sait jamais trop quoi dire.
Il en fait de plus en plus dans la série au bout d'un moment. On se voit vraiment.
Il y a eu un épisode où il est en marionnette.
Un des meilleurs épisodes de la série.
Smile c'est Life. Saison 5.
Ouais. Mais Angel se lâche de plus en plus, il fait de plus en plus de blagues là, il n'est pas encore vraiment chaud.
Non, là, la série va vachement évoluer. Pareil, cette histoire de super-héros, ça disparaît après. Ouais. Il part dans un monde parallèle. On en parlait tout à l'heure, un monde héroïque fantasy un peu. Ça s'éloigne vraiment de ses codes du super-héros, du polar.
Bah c'est le code du héros, mais pas du super-héros.
Exactement. Retour au flashback.
En train de teaser, hein, c'est bon, bien Angel.
On boit un coup, faut boire un coup, hein, forcément. Faut pas se laisser abattre.
Alors,
super, on n'est pas des bêtes. Hein.
Ça va trop vite cet épisode, on n'a pas le temps de tout dire. Ah oui, Darla rejoint Angel après la mort de son père, donc Angel a tué le père, hein, c'était important pour.
Et là, on découvre un peu Angelus qui commence à se profiler.
Voilà,
il
et là,
est plus à l'aise.
Exactement.
Ouais,
il
c'est vrai,
commence à tenir tête.
Même niveau du corps, en fait, il bouge un peu mieux.
Carrément, ouais, on le sent plus.
Bah, il prend plus de charisme, ouais, il est pas comme un jeune tout à l'heure. Comme tout à l'heure.
Bah, est-ce qu'il a pécho Darla à ce moment-là? On sait pas.
Dans le corps de
on sait pas.
C'est quand même ça le plus important.
On le suppose, en tout cas, ça va pas tarder.
C'est qu'en tout cas, Darla lui explique qu'il souffrira toujours quand il est condamné toute sa vie.
Et on voit une porte entrouverte, le monde s'offre à lui.
C'est le fardeau d'Angel. Hein, comme dans Buffy, il souffre pour l'éternité. Là, c'est triste. Darling boy. Et oui. Voilà. À vous.
Eh bien, moi j'avais pas plus à rajouter. Attends, fais voir.
Non, c'est assez triste comme ça. Elle s'enchaîne avec le cercueil.
C'est iconique, c'est cool.
Donc le père de Kate est mort et Angel pareil reste encore dans l'ombre, il peut pas aller la réconforter.
Donc là ouais, c'est un suicide, on découvre l'ombre d'Angel, on comprend que c'est Angel, c'est un plan subjectif, c'est Angel qui est en train d'observer Kate
deux jours.
Sur Kate qui rend hommage à son père sur la tombe. Mmh. Et moi je sais pas si ça vous rappelle pas le plan de Becoming où Angel observait Buffy de loin dans sa voiture dégueulasse quand il débarquait à Los Angeles justement. Et c'est un peu ça, c'est on a un Angel on lui rappelle sans cesse que les gens desquels il s'approche finiront toujours mal, ils leur arriveront des malheurs, et c'est quelque chose qu'il sait, pourtant.
Il fera toujours du mal autour de lui.
Et c'est pour ça qu'il essaye d'être le plus solitaire possible, mais c'est quelque chose qui...
D'ailleurs, au tout début de la série, il est tout seul, et on le force finalement à rencontrer des gens qui va faire souffrir après.
Il est tout seul depuis 50 ans, en fait. Depuis l'histoire de l'hôtel, l'Hyperion, etc.
C'est ça.
Ouais. Oui, exact.
Et c'est ça qui va être récurrent dans la série, c'est que le mec a compris que dès qu'il a des gens autour de lui, qui tiennent à lui ou que lui tient à des gens, ils vont leur arriver des malheurs. Mais ça va arriver quoi qu'il fasse, et il va leur arriver des bricoles à ces gens.
Parce
à son
temps
courage,
à s'éloigner.
Tout le temps.
Il n'est pas de leur monde, simplement.
Condamné à être hors du monde des humains.
Malgré son âme, c'est...
À être derrière la porte.
Exactement. À ne pas pouvoir rentrer...
On est très systématique porte. Hein.
Rester sur le pas de la porte, on est d'accord.
Exactement. Conclusion, parlons de l'épisode en soi. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon épisode, quand même. Ça expose bien les codes de la série, qui sont le polar fantastique. Le héros sombre, qui est en fait un monstre à l'intérieur, qui du coup crée des problèmes autour de lui.
Mais qui essaye.
Mais il essaye.
La rédemption.
Le monstre gentil. Hein.
Casimir.
Et des très bons flashbacks qui sont le vrai atout de l'épisode, qui montrent que Angel est né d'une tragédie. Il tue son père et sa famille. Il en avait besoin pour devenir Angel le vampire. Angelus le vampire.
Ouais, et on se rend compte que l'idée de mélanger polar et fantastique prend tout son intérêt dans ce personnage de Angel. Parce que, rappelez-vous, dans les films noirs, le personnage du détective était toujours solitaire. Il passait son temps, alors parfois il avait l'aide d'un petit jeune qui l'aidait, ou il avait une histoire, une romance avec une bombasse femme fatale. Mais à la fin, il finissait toujours seul. Et c'est exactement ce qui se passe à ce qui se passe pour Angel dans cette série, c'est qu'il est éternellement solitaire quoi qu'il arrive, quels que soient les amis qu'il arrive à
fédérer,
à fédérer autour de sa cause.
Comme Roger.
Il finit toujours seul. Et donc c'est pour ça que l'idée de faire de Angel un détective privé est une excellente idée pour ce spin-off.
Puis le côté immortel en rajoute en plus par-dessus, niveau solitaire, parce que seul lui comprend le poids des années de l'immortalité.
Il y a un épisode où Angel il est dans les tranchées, quoi. Il fait la première guerre.
Non, il y a un épisode avec Angel et Spike en Asie dans un sous-marin.
Ah ouais?
C'est excellent d'ailleurs. Ou enfin, en Spike est pseudo-nazi, Angel est travaille.
Pareil, ouais.
Angel travaille pour les États-Unis.
Ces flashbacks, il n'y en a pas eu assez aussi.
Alors voilà, ouais, justement.
Il aurait pu en avoir encore plus.
Mais oui, sur les origines d'Angel. C'est ça que j'aurais voulu
dire. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas cette flashback. Mais on en voit pas mal dans Angel.
Comment Angel est devenu ce qu'il est, je sais pas. Ça m'intéresse.
Bah c'est ce qu'on voit ce soir là.
Tu le disais,
sur l'ensemble de la série.
Ouais, tu le disais, Riley, tu parlais de Highlander, et c'est vrai que moi en regardant
de la guerre des tranchées là pour le coup, bah oui, c'est vrai.
Mais ça on le voit pas, ouais, ils ont pas assez développé ces.
En regardant Angel,
on le voit dans les saisons ensuite, hein. On le voit Angel 1950, 1930, 1920.
Oui, on voit plusieurs flashbacks, mais
on s'attend à le voir plein de fois. Dans les Highlander, clairement, Duncan MacLeod, il passe son temps
à avoir des flashbacks.
Même limite, c'est pas crédible toutes les vies qu'il a vécues à la guerre de sécession.
C'est un peu le caméléon quoi.
Mais c'est ça. Et on avait envie de voir ça avec Angel et c'était peut-être pas
assez. C'est vrai qu'on le voit peut-être pas assez, mais en même temps la série était en d'autres qualités. C'est pas très grave qu'il y ait pas beaucoup de flashbacks, moi je trouve.
Non, mais
c'est vrai qualités. Que ça aurait pu être sympathique.
Notamment les persos, c'est vrai que là aussi j'ai choisi cet épisode, mais on les voit pas beaucoup, il a pas beaucoup d'entourage, mais c'est aussi une des forces de Angel, c'est qu'il est très entouré, comme dans Buffy, il a tout un groupe autour de lui et qui sont énormément développés dans Angel.
Bah déjà rien que Cordelia, rien que voir Cordelia en fait, qu'on voit
Cordelia,
une peste dans Buffy qui est pas très intéressante et qui là devient
oula,
devient une déesse quand même.
Cordelia n'est pas intéressante dans Buffy.
Non mais je dis ça à la va vite.
Tu te calmes.
Mais je trouve que dans Cordelia elle est beaucoup, dans Angel elle est beaucoup plus quoi.
Puis en fait aussi pour l'instant en première saison Angel c'est perturbant, on voit encore les méga sharks là. Angel reprend la mythologie de Buffy pour l'instant, ils vont pas plus loin, ils apportent pas grand chose pour l'instant en plus à l'univers de Joss Whedon, et ça c'est un peu dommage en première saison, alors que pourtant il y a le Wolfram et Hart dont on parle pas dans cet épisode mais dont on parlait déjà dès le premier épisode et dont on reparle à la fin de la première saison, qui est une sorte de Big Bad, on le disait tout à l'heure, global,
qui est là sur toutes les saisons, même si après il y a des méchants à chaque saison un petit peu vaguement.
Oui, il y a des cas de l'autre, mais il y a
Wolfram et Hart sont là global, tout le temps, jusqu'à ce qu'Angel les rejoigne à la fin.
Voilà, Angel prend la tête du truc, ça c'est bien vu aussi, ça change tout quand Angel devient le chef.
Et moi je trouve ça génial, ça permet une évolution vachement grande, qu'il y ait un seul méchant qui les confronter tout le temps. Enfin, c'est vachement plus insidieux et l'évolution entre les deux et le rapport de force est beaucoup plus lent.
Ouais.
Et c'est sur 5 saisons, c'est pas juste une saison et c'est fini, c'est là 5 saisons où le rapport change, quoi. C'est fou.
Ce qui est dans cette première saison pas assez exploité, je trouve.
C'est vrai.
Bah, Wolfram et Hart est nettement pas assez exploité, on le voit en.
Ça arrive vraiment qu'à la fin de la saison, alors que dès le premier pourtant il l'évoque.
Mais pour conclure, moi sur cet épisode, je voulais revenir sur.
Nous on parlait plus du tout de l'épisode.
Voilà, c'est ça, et voilà. Et moi je voulais conclure cet épisode en parlant vraiment de la filiation qui est vraiment. Au centre de cet épisode et faire un parallèle avec l'épisode 111, donc 4 épisodes avant, qui s'appelle Somnambuliste, un épisode dans lequel Kate découvre qu'Angel est un vampire, c'est à ce moment là qu'elle le découvre et surtout que Angel se retrouve confronté face à une espèce à un fils, presque à un fils, un vampire qu'il a engendré.
Donc c'est le mentor, c'est ça ?
Exactement. Un vampire qui s'appelle Penn, qui est interprété par Jeremy Renner, qu'on connaît maintenant, qu'on a vu dans les Avengers notamment. Et dans cet épisode, Angel joue le rôle du mauvais père. Comme dans les flashbacks qu'on vient voir, lui il jouait le fils, mais
c'est
là,
vrai.
Dans l'épisode Somnambulis, il joue le rôle du mauvais père, qui doit faire face au gouffre qui le sépare de son fils. Et il y a aussi une histoire de tuer symboliquement le père avec une scène finale dans cet épisode où Kate transperce Angel pour tuer finalement Penn qui est derrière. Enfin, c'est important. Et voilà, et ça dégage une thématique hyper importante dans cette saison 1 et qu'on retrouvera dans toute la série Angel.
qu'on retrouve dans la saison 3 quand il a un fils, du coup, Connor.
Exactement.
Et qu'on retrouve même dans la saison 5 quand ce que tu racontes avec Penn se retrouve avec un autre vampire, ce qui était dans le sous-marin, justement, où je parlais avec les nazis, et qui revient voir Angel comme Penn, en fait. Donc ils l'ont fait deux fois, le même scénario deux fois de suite.
Non, mais c'est ça, le thème de la filiation, de devenir parent, j'en reparlerai dans.
C'est hyper marquant dans Angel.
Plus tard dans cette émission, le thème de la filiation, d'être parent, de donner son savoir, tout ça, et de pas forcément avoir ce qu'on espérait en retour. Est très important dans cette série et donc du coup est très exploité dans cet épisode, dans Prodigal là qu'on vient de voir, dans Somnambulis et dans d'autres épisodes de la série comme dans la saison 1, dans I've Got You Under My Skin, qui est juste avant, ouais. L'épisode sur un enfant qui se révèle être démoniaque, ou Expecting, un épisode où Cordelia tombe enceinte après avoir couché avec un mec.
Elle tombe tout le temps enceinte pour
juste savoir.
Non, mais ils ont fait souvent les mêmes scénarios en fait.
Mais parce que c'est une thématique
récurrente
de la série,
mais
très
même
important.
Filiation père-fils.
En faire du fils d'Angel l'ennemi, c'est une très bonne idée finalement.
Bah ouais, que le cool, fils d'Angel soit.
Cette idée qu'ils grandissent d'un coup aussi, ça,
et voilà,
c'était vachement bien ça.
Et cette thématique prendra son ampleur avec dans les saisons 3-4 avec Connor, le personnage de Connor.
Et il y a aussi filiation, pas seulement père-fils, mais frère-frère, parce que vu que Spike et Angel ont pas été. Enfin, ils sont un peu frères, et quand il arrive dans la saison 5, c'est vraiment une relation frères-ennemis, entre guillemets.
C'est génial.
Et je l'ai pas évoqué, mais on a appris donc que Angel, son prénom c'était Liam. Rappelez-vous, le prénom de Spike c'est William.
William
de Bloody. Liam, c'est le diminutif de William. Pareil, ouais. Cette idée de donner le même prénom à Angel et Spike avait le même but, de les rapprocher tous les deux, en faire vraiment deux frères qui ont plein de points communs. Le vampire qui a une âme, ils ont le même prénom, ils ont une histoire avec Buffy.
Leurs sœurs
en cuir,
sont deux femmes, une brune, une blonde, qui sont des femmes fortes.
Et leurs histoires avec Cordelia, avec Drusilla, autant pour. Mais voilà, tout est fait pour relier ces deux personnages, en faire des miroirs, des siamois, je ne sais pas.
Ouais, un épisode excellent de la première saison. J'ai pensé aussi à celui-là peut-être, où il y a Spike qui arrive
le ring, 3. The Ring il s'appelle,
ouais
la pierre d'Amara,
le gem d'Amara,
ouais. Spike vient chercher cette pierre
qui Oz a amené, crossover avec Buffy d'ailleurs,
qui a crossover avec Buffy. Il y a Oz qui débarque à Los Angeles, qui
crossover léger, hein. Il est dans deux scènes, Oz, hein, attention.
Ouais, mais il sauve la situation à la fin,
oui, bien sûr, mais
on voit pas que le moment où dans Buffy où ils attrapent l'anneau,
si bien sûr, c'est Buffy qui le récupère,
c'est moi qui ai une continuité, quoi.
En fait, c'est Spike qui le trouve et
la poursuite de l'anneau, donc il arrive dans Angel. Et donc c'est une pierre pour pouvoir rester au soleil, hein, et ne pas passer par les égouts. Donc c'est une pierre vachement importante.
Qui aurait pu leur sauver la vie, voilà. Des scénaristes. Hein,
et Angel, à la fin de l'épisode, il l'a et il la casse. Ouais, c'est dommage.
Il veut rester dans la nuit.
Ouais. Il cherche un peu la merde quand même. Ils viennent pas se plaindre quand même.
Mais du coup, tout à l'heure, juste, on parlait de Spike et Angel qui étaient miroirs, et à la fin de la série, c'est poussé à l'extrême, parce que vu que Spike est devenu gentil aussi. La prophétie qui concerne Angel, pour dire c'est un vampire avec une âme qui va peut-être devenir humain,
ça peut être,
ça peut être Spike aussi. Mmh. C'est un peu comme Neville et Harry pour la prophétie dans Harry Potter. Voilà.
Ah oui, il y a ça dans On n'est pas assez calé Harry Potter.
Mais c'est un peu la même chose.
Les deux ont... est dans une prophétie.
En fait, ouais, c'est la prophétie parle dans Harry Potter de un fils, enfin un mec qui a été de la famille tué par Voldemort, comme et Neville, sa famille a été tuée par Voldemort aussi. Ah, du coup, ça pourrait être Neville ou Harry.
Il a une cicatrice aussi.
J'ai vu passer ça.
À aucun moment on se dit que ce serait Neville.
Ils en parlent dans un délire ou dans un bouquin. Hein.
Oui, mais
il y a Dumbledore, il fait, tu sais, avec Neville ça marche aussi. Et Harry fait, oh bah calme-toi quand même, attends. Il y a écrit Harry Potter sur les bouquins.
On sait que c'est Harry Potter, c'est ça, on le sait.
Les élus sont pas les vrais élus.
Mais du coup, Angel Spike c'est vachement important. Et il y a un épisode avec un Graal qui essaie de choper tous les deux et ils se battent pour être le vrai héros et
tout.
Est-ce qu'on a tout dit sur Angel? Est-ce qu'on passe à la rubrique de l'invité, messieurs?
Ben, on n'aura jamais tout dit sur Angel.
On n'aura jamais tout dit parce que voilà, vu qu'Angel c'est mieux que Buffy, il faudrait des podcasts entiers, des podcasts entiers sur Angel pour comprendre la fine saveur de cette série.
Eh ben, fais des podcasts sur Angel et on viendra te.
Écoutez, je vais faire le spin-off de votre podcast.
C'est ça, on viendra t'aider de temps en temps. Allez, passons tout de suite à la rubrique de l'invité.
Buffy c'est génial.
Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça.
Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux.
Parce qu'il y a des vampires.
C'est badass.
Et elle est gros sein, c'est pour ça.
Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde.
Buffy ça me donne du boulot.
Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool.
Buffy was awesome.
C'est l'heure de parler de notre invité, Monsieur Stavro.
Bonsoir.
Nous avons toujours trois questions à poser à notre invité.
C'est vrai.
Ouais.
Je suis pas au courant en plus, donc allons-y.
La première question, c'est quel est ton épisode préféré
donc, de Angel.
Alors, on parle de Angel ou de Buffy alors
c'est, on est dans pourquoi Angel, c'est génial.
Alors ton épisode préféré
dans
de Angel
les deux, en fait, tu dis dans les... Mais tu te souviens pas assez de Buffy.
Ouais, je me souviens peut-être pas assez de Buffy, donc Buffy, on va la jouer safe. Je vais dire l'épisode musical. Voilà.
C'est un
mec
comme
ça.
Facile, c'est un peu facile.
Okay.
Mais au moins, mais si je pense, j'ai acheté le CD de la BO, l'épisode musical.
Ah ouais,
donc t'as le droit.
Donc j'ai le droit de le dire. Et Angel, c'est une. Putain, c'est une question vachement compliquée. Parce que j'en aime tellement. Je les aime tellement si fort. Je saurais même
quand
pas dire.
Dors.
Ouais, non.
Je...
quand tu. T'as Marc Lavoine, on t'aime.
C'est terminé.
Ah, c'est ça, ok.
Du coup, j'ai pas du tout réfléchi, donc je vais.
Bon, c'est pas la première saison en tout cas.
Non, ouais, bah, non, c'est pas celui-ci. Mais si j'en trouve un, je vous le dis. Mais pour l'instant, je sais pas, je saurais pas en dire un précis.
Comment tu as découvert la série? Et aussi, bah, forcément, on a un podcast sur Buffy à la base, hein, tu le sais. Et, est-ce que tu as découvert cette série avant ou après Buffy? Voilà, comment s'est fait cette découverte d'Angel ou de Buffy?
Buffy, bah, c'est la trilogie du samedi.
Ah,
c'est M6 quoi. Voilà, j'ai découvert ça comme ça. C'était du coup quand j'étais jeune, c'était Buffy, Charmed, c'était un peu tout dans le même panier. Buffy, Charmed, Stargate.
Ouais. Et donc tu regardais tout ça du coup.
Voilà, oui, je regardais tout ça. J'ai été bien
Charmed
élevé.
Charmed aussi.
Hein. Ouais, Charmed aussi. On peut en parler bien sûr. Non. Pas de soucis.
Non, non. Pas ici. En fait,
vous savez qu'il y a quand je parle souvent la rue du samedi, il y a beaucoup de gens qui me disent préférer Charmed à Buffy et ça me révulse.
C'est des gens, c'est des gens qui n'ont pas compris.
Ça me révulse, mais d'une force. Non, non, parce que Charmed c'est vraiment nul, du nul.
Mais bien sûr, c'est tout moisi.
Les actrices sont jolies quoi.
Ouais, mais c'est pas bien écrit, c'est jamais bien écrit.
C'est mal écrit, ouais.
Bref, et du coup, j'ai découvert Buffy comme ça et Angel, j'ai découvert ça sur TF1 aussi, parce que quand j'étais petit, j'regardais beaucoup la télé. Et du coup, je me suis dit, attends, mais c'est la suite de Buffy, c'est génial et tout. Et après, j'ai dû tout remater quand j'étais plus vieux, donc j'ai commencé par remater tout Buffy.
Angel, ouais.
Non, j'ai rematé tout Buffy d'abord, et après j'ai maté tout Angel, et j'ai dû mater Angel 3 ou 4 fois quand même.
T'as parce préféré que j'ai... Angel du coup direct.
Voilà, j'ai maté une fois tout Buffy.
Ah, ça, c'est génial.
J'étais, c'était bien. Là, je mate tout Angel, je fais,
tu
mais attendez,
Angel.
Je vais recommencer.
C'est
je vais recommencer, je vais recommencer. je préfère
pourquoi,
Angel.
Du coup, tu préfères.
Les thématiques de Angel me parlent plus en fait. Buffy, on l'a dit tout à l'heure, c'est du teen drama, et c'est drôle, et c'est un peu pop, tu vois.
Ouais,
c'est
exactement, ouais.
Et Angel, c'est tellement plus insidieux, tellement plus noir, mais pas. Noir dépressif, noir c'est viscéral un peu, il y a des thèmes vachement glauques quoi qui sont
plus
abordés.
Sérieux peut-être, non?
Et alors on en parlait avec Clément en off, il y a une scène de Angel qui est géniale et qui justifie toute la série pour moi. C'est dans la saison 2, Angel prend l'ascenseur pour aller voir les dirigeants de Wolfram & Hart.
Bien sûr,
ouais. Il dit bon bah là je vais en finir avec eux, c'est un moment assez glorieux où il a réussi à avoir un anneau spécial pour aller aux enfers et tout. Et là l'ascenseur s'arrête et il revient à Los Angeles.
C'est là les enfers.
Et Holland Manners, qui est un mec de Wolfram & Hart qu'on a beaucoup vu dans la saison 1 et 2, lui dit bah l'enfer c'est là, c'est pour ça que nous on veut. Et il lui dit nous on veut pas gagner, c'est pour les bouseux. Nous on continue. On continue quoi qu'il arrive parce qu'on est dans le cœur des gens.
C'est une scène qui a marqué, je pense, tout le monde.
C'est un truc, c'est dans Profit, il y a une réplique qui pareil, où le héros dit que c'est la ville et l'extérieur qui.
L'enfer est sur terre, c'est clairement ça.
Il faut essayer d'être de plus en plus haut dans l'enfer en montant dans un building et donc les échelons. Ouais.
Mais c'est pour ça que Angel, c'est fascinant, c'est toute la série est contenue là-dedans. Enfin, l'esthétique et les thématiques, c'est ce qui développe tout le temps. Et c'est pour ça que la ville de Los Angeles est vachement bien choisie parce que c'est la grande ville, les dangers, etc.
C'est pas une ville fictive comme Sunnydale, c'est une vraie ville aussi, ça, c'est un choix.
Et il joue là-dessus sur les gens perdus au milieu de ce monde, les gens perdus socialement.
Les gens qui veulent devenir acteurs comme Cordelia,
exactement.
Hollywood, parle d'Hollywood du coup.
Le premier épisode, c'est un producteur d'Hollywood qui est le vampire, donc
vampire,
voilà.
Et Cordelia croit qu'elle va devenir actrice.
En fait, voilà, dans Buffy, les obstacles. Fantastiques sont un peu des métaphores du passage à l'âge adulte.
Ouais.
Là, c'est juste des métaphores de ce que tu. Des dangers que tu peux encourir en restant juste toi. Pour rester toi-même, en fait. Et pour ça que le méchant. Wolfram & Hart reste les 5 saisons parce que petit à petit Angel s'en rapproche. Tu vois Weasley dans la saison 3 qui couche avec une meuf de Wolfram & Hart. Tu vois Angel qui devient le patron de Wolfram & Hart.
Ouais.
Du coup, tu te dis. C'est un peu la phrase connue si les héros meurent jeunes ou ils vivent assez longtemps pour devenir les méchants quoi, voilà. c'est un peu ça Angel, c'est beaucoup plus insidieux dans les thèmes et c'est moins frontal je trouve que Buffy.
Donc, c'est moins frontal, ouais.
Moi, c'est pour ça que ça me plaît plus.
Mais c'est plus dur à regarder, du coup.
C'est plus dur, c'est, faut, en fait, c'est plus long, du coup, c'est plus lent. Et je pense que
plus,
la série s'apprécie plus sur la longueur que Buffy, je pense.
Et puis, est-ce que ça, ça t'explique aussi, c'est très pessimiste, que ça explique que ouais, pour très... devenir adulte, il faut accepter de
faut se compromettre.
Exactement, de se compromettre, de renier ce qu'on, les idéaux qu'on avait quand on était un peu jeune.
J'y penserai demain au boulot, tu vois.
Mais c'est ça, c'est pour ça que ça me touche plus, parce que moi, c'est, voilà, ça me fait peur de grandir et tout. Et, tout. Et du coup, bah, Angel, ça me parle vachement pour ça. Je pense c'est pour ça que je préfère.
Ça donne envie d'être un adulte, hein, ça c'est sûr.
C'est ça que je préfère Angel à Buffy. Parce que Buffy, elle y va en frontal, elle dit bah, attendez, les gars, on trouve un moyen, on s'en sort. Et ouais, est-ce qu'on promet pas dit, Angel, ça se passe moins bien.
Elle dit fuck, moi la règle, moi je vais la changer la règle.
Voilà, Angel, il dit la règle, bon bah je vais la changer.
Mais je n'y arrive pas. Je vais faire
avec. Peut-être on va faire. Et puis ses potes, ils crèvent du coup.
Donc peut-être on va faire pareil finalement. Donc c'est pour ça que. Donc en fait, c'est même pas une préférence objective, c'est juste ce qui va plus te toucher quand tu regardes la série.
Exactement, ouais.
C'est un univers et des acteurs qui te touchent plus ou pas. Moi, ça me touche plus en l'occurrence. Mais c'est pour ça que ça me semble pas choquant de préférer Angel en fait. Parce que pour moi, il n'y a pas une baisse de qualité, il y a juste différentes thématiques. Du coup, c'est juste ce avec quoi tu te rapproches le plus, à quoi t'es le plus sensible. Ce à quoi t'es le plus sensible.
Ouais.
Voilà, c'est en fait c'est ça le conseil, c'est regarder Angel en fait, c'est juste ouais. Ça. Et je pense que je pense que beaucoup de gens qui aiment pas trop Angel, enfin je peux me tromper, mais ont un souvenir de la diffusion de TF1 en regardant. Ouais, tu regardes un peu sans suivre. Tu prends un épisode comme ça d'Angel, ça sera pas terrible. C'est vraiment c'est sur la longueur que ça devient bien. C'est un goût acquis, un peu comme le whisky.
Et alors, la dernière question qu'on t'a toujours pas posée, ça
on est toujours là, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. On était qu'à la deuxième question.
La troisième question, c'est qu'est-ce que tu fais à part regarder Angel ou Buffy?
Je joue aux jeux vidéo.
Ah, très bien.
Tu joues à quel jeu vidéo?
Alors, le jeu, moi un peu Angel des jeux vidéo, c'est Dark Souls.
Dark Souls
Ah là là.
Ah oui, d'accord.
Dark Souls, c'est mon messie, c'est toute ma vie. On peut en parler
toute
des
toute ta vie, carrément. Tu passes ton temps à jouer.
J'ai raté un de mes mémoires à cause de ça, une année d'études. Le jeu est sorti le 12 avril, je vais le rendre le 13 mai, bon, je l'ai rendu le 22 juin. Entre temps, j'avais fini Dark Souls 2. Voilà. Merci à toi, From Software. Sinon, je joue à League of Legends. J'ai surtout mais c'est une drogue, ce truc. C'est...
Ah ouais.
J'étais sobre pendant
moi, j'ai
deux
pas
ans.
Joué à ça, ouais.
J'étais sobre pendant 2 ans, parce que j'ai joué 4 ans.
League of Legends,
j'ai joué 2 ans, je fais bon, c'est bon, j'y joue plus. Et là, je suis retombé dedans depuis un mois et j'y passe mon temps. Et c'est chaud. Ouais, c'est addictif.
Tu joues à Hearthstone?
J'ai joué à Hearthstone.
Moi aussi, un peu. Ouais.
Je suis pas très bon.
Il faut arrêter ça. C'est pareil, c'est addictif aussi.
C'est pas très bon, mais je suis pas très bon. Je suis pas très bon.
C'est dur d'être bon aussi.
Voilà, faut réfléchir, faut faire des calculs. Je suis pas fort en maths. Voilà. À part d'accord. ça.
Tu fais du podcast?
Je fais des podcasts, du coup, Fucking Kermesse. C'est un podcast sur la pop culture. On parle de nains, de Bruce Willis, de Power Rangers.
De japonais. De
sexe au Japon, etc. Ouais. Enfin, de plein de choses, quoi.
De jeux vidéo aussi, parler d'amour dans les jeux vidéo.
D'amour dans les jeux vidéo, la numéro 9. Et aussi de Universe, je suis aussi dans Universe, du coup, on parle de Doctor Who, un peu comme vous le faites ici.
Mais Doctor Who, c'est génial.
c'est presque ça.
Ceux qui font pas, ils regardent pas l'épisode, vous le regardez juste avant et après vous enregistrez quoi.
Enfin, on le regarde chez nous et après on se retrouve. Mais vu que la série est encore en activité, c'est un peu plus facile d'en parler.
C'est ça qui est génial. Mais c'est ça qui est cool. Vous faites un marathon, enfin un marathon de podcast où toutes les semaines vous suivez.
Toutes les semaines l'épisode sort et après on fait bah alors vous avez pensé quoi.
Et si on parlait un petit peu de. On s'en fout, vous l'avez vu de la saison 9, Clément?
Ah, ça va peut-être spoiler beaucoup de gens. Hein.
De Doctor Who, là, tu vas parler de.
Non, on parle pas de ça.
Bon, je peux juste dire que Peter Capaldi est mon docteur préféré.
Ouais.
Voilà.
Ah, carrément.
Ah oui, carrément.
Non, il est excellent, il est vraiment génial.
Étonnant, ton oublie.
J'ai envie de dire que Clara est ma compagne préférée.
Ah non, non.
C'est un soleil, comme vous avez
dit.
Ça, c'est pas vrai, du tout. Amy est beaucoup mieux.
Non, mais Clara est quand même géniale.
Mais oui, je suis un peu le spécialiste des causes perdues. Je préfère Angel, Capaldi, c'est mon préféré.
Non, Capaldi, non, mais. Ah, mais les gens sont unanimes sur
Capaldi. Bah ouais, mais les gens ne jurent que par Tennant quand même, tu vois.
Bah oui, mais. Moi, Tennant là, il est énorme dans. Jessica Jones.
Il joue très bien.
C'est une autre série, on est d'accord.
Ouais, non, mais c'est le même acteur. Non, mais là, ça prouve que c'est un bon acteur.
Ouais, et même dans Broadchurch, il était très bon.
Ouais, il était très bon aussi.
Et du coup, voilà, les séries, les jeux vidéo, les podcasts, j'écris des trucs. Un jour, j'aimerais être écrivain.
Des poèmes.
Voilà. Comme Guillaume Musso, Amélie Nothomb.
C'est nos écrivains préférés.
Yann Moi, pilier de la culture française. Voilà. Non, mais sûr, mon premier roman s'appellera Le Casse-moi, évidemment.
Non, mais t'écris des poèmes, du coup.
Oui, parce, ouais.
Un pavé dans ta mère, tu disais.
.tumblr.com, allez-y, c'est génial. Éditez-moi.
On mettra lien. Éditez-moi.
Voilà. Éditez-moi.com.
D'accord.
On ira.
Quoi d'autre, mais du coup, ma vie n'est pas très intéressante. Après, je fais de la philosophie à la Sorbonne.
Ah oui.
J'ai fait un mémoire sur les jeux vidéo. Jouer peut-il te rendre meilleur? Grande question. Ah. Meilleur, une sens morale entre guillemets.
Ouais, bien sûr.
Bah, après voilà. Ghouls and Ghosts, moi je te dis oui, carrément. Ça me rend meilleur.
Tu parles de, tu prends GTA en exemple?
Non, non, même pas. J'essaie de m'intéresser. Pas vraiment du jeu, je parle du.
Est-ce que t'es obligé, comme si, en cinéma par exemple, de choisir 3-4 œuvres et rester.
Mais en fait, je parle de Stanley Cavell, beaucoup que vous devez peut-être connaître. C'est un philosophe qui a parlé du cinéma. Il parle de l'expérience du film comme expérience morale. Le fait d'aller au cinéma. Enfin, c'est très compliqué. Ah, on va pas faire tout le truc, mais.
On a le temps.
En gros, comment je peux expliquer ça en d'ailleurs intelligent?
Pas que l'œuvre, mais l'expérience de l'œuvre, c'est ça?
C'est en fait être face à un écran de cinéma pour Stanley Cavell, ça te met dans ta position de distance face au monde, parce que t'es toujours dans le cinéma. Pour lui, c'est citation une image mouvante du scepticisme. Et du coup, vu que t'es relié au monde que par tes sensations, le cinéma te permet de vivre, voilà, dans la vraie vie, l'expérience que t'as tous les jours, parce que t'es relié à ce qui se passe à l'écran que par tes sensations, que par ta vision, par, etc. Les gens qui sont avec toi et tout. Ouais. Du coup, ça te rappe, ton côté spectateur est mis en exergue par le cinéma. Et du coup, si tu te rends compte de ta place dans le monde en allant au cinéma. Et ça, et les films que tu vois t'offrent une solution pour t'en sortir de ce côté, de cette distance inaltérable de ton, de ta subjectivité. Ouais. Et du coup, les Love de Whedon marchent bien là-dedans, parce que souvent la ce qu'il proposait face à la distance que t'as au monde en tant que spectateur, soit dans une salle ou dans la vraie vie, c'est le dialogue. Et du coup, bah, vu que c'est basé uniquement sur le dialogue, quasiment Angel, Buffy, etc., ça marche bien. Et Cavell dirait, ça te rend carrément meilleur en tant que personne, du coup. Et du coup, j'essaie de voir si ça marchait pour le jeu vidéo ou pas.
Et ça marche?
Cavell, non. Et du coup, je dirais qu'en fait, le jeu vidéo, parce que c'est ma fin de mon mémoire, il te rend pas, enfin, on sait pas s'il te rend meilleur, mais en tout cas, ils en ont les moyens en possible, tu vois.
Ouais, mais
ils en ont les moyens, parce que c'est un peu chiant.
Ouais, puis après c'est quoi devenir meilleur et tout, enfin
c'est
oui. Subjectif déjà, mais non, mais t'as choisi quelqu'un qui avait une définition du meilleur en quelque sorte.
Ouais.
Du coup, t'as essayé de l'appliquer, ça marche pas du coup.
Sur ça, le vidéo, enfin non, parce que c'est pas la même narration, c'est pas le même type d'image.
Oui, tout à fait, ouais. Pourtant, ça essaye de s'en rapprocher vachement avec des jeux interactifs.
Oui, tu n'es pas David Cage qui veut, hein, ce génie, ouais. Oh là là, non, incroyable.
Ne parlez pas ça. Mais...
non, mais
nous, on n'est pas très bon aux jeux vidéo, quoique le Fallout 4, là, j'ai envie de le fermer.
J'aime pas trop Fallout, donc
le 3, il faudrait que tu parles pour ta gaming kermesse de Fallout 3 quand même.
Moi j'ai fini Tetris 3 fois. Hein.
Quand même, t'as fait décoller la fusée.
Ouais, grave.
Ah bah la classe. C'est marrant qu'on parle d'esthétique du cinéma et de Stanley Cavell devant Mega Shark.
Oui, alors justement, moi je tiens à dire, on dit des choses très intéressantes, mais le film là me fait complètement débrancher. On est en train de regarder une sombre bouse.
Parce que vous allez en parler, très bientôt.
Je prépare, fallait le voir plus.
Mais oui, du coup, fallait le voir au moins 2-3 fois.
Passons tout de suite à la rubrique Si t'aimes Angel, tu vas aimer ça.
It's bollocks, Angel. It's your brand of bollocks, from first to last. You can't ever see the big picture. You can't see any picture. I am talking about something primal. Right? Savagery, brutal animal instinct. And that wins out every time with you. You know, the human race has evolved, Spike, into a bunch of namby-pamby, self-analyzing wankers who could never hope we're bigger, we're smarter. Aggressors. Plus, there's a thing called teamwork, not to mention the superstitious terror of your pure
you
aggressors.
You just want it to be the way you want it
to be. It's not about what I want.
Sorry. Is this something we should all be discussing? No. It just sounds a little serious.
It was mostly theoretical.
We were just working out of.
Look, if cavemen and astronauts got into a fight, who would win?
Oh. You've been yelling at each other for 40 minutes about this. Do the astronauts have weapons?
No.
Clément, tu voulais nous parler de Mega Shark contre Mega Shark.
Tu m'as dit que t'avais adoré ce film, Clément.
Et puis tu l'as vu 4 fois de suite.
Tu passes en boucle depuis le début du podcast.
Effectivement, alors c'est un film de série B, Z, de Z versus Z puissance 1000.
Z prime.
Mega Shark versus Mega Shark.
Mais pourquoi on en parle, Clément?
Donc Mega Edwin. Non mais je précise pour que les gens regardent. Mega Shark versus Mega Shark.
Mega Shark.
Ah oui, pardon.
Ah oui,
Mega Shark. C'est tout le sens du film.
Faut préciser quoi.
Mais non, mais je crois que ça.
Il y a un Mega Shark.
Je croyais qu'il y avait Megalodon dans le.
Non, contre un Mega, un shark robotique.
Contre Mega Shark, réalisé par Emil Edwin Smith. Voilà.
C'est un film d'action.
C'est sûrement un pseudonyme d'ailleurs.
C'est très certainement un pseudonyme, c'est horrible. Voilà, c'est une succession de plans.
C'est surtout avec.
Non, mais au bout d'un moment, tu vois, voilà. Pourquoi tu veux me balancer le truc et tu veux pas finir. Alors,
pourquoi tu nous en parles, Clément?
Parce que figurez-vous que dedans, il y a Kate, la flic qu'on a vue dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est. Comment s'appelle cette actrice?
Elizabeth Rome.
Rome, qui
finit sa carrière donc en 2014 dans un film de requin avec Christopher Judge.
Sa carrière,
avec
dans Stargate.
Sa carrière est loin d'être terminée.
J'adore Stargate, on pourra en parler, mais bon, bref.
Donc oui, on est d'accord. On a là un film avec des requins géants, hein, qui.
Un seul requin, ouais.
Et il y en a deux.
Il y en a deux et il y a
des requins robots.
Même pas. Depuis tout à l'heure, le film, on le voit.
Il se bouffe la gueule.
Il y a quatre plans sur le requin. Le requin n'est pas là. C'est juste un titre, le requin.
Et donc,
ce film est une honte.
Et donc, dedans, il y a Elizabeth Rome, donc Kate de Angel, qui est mariée avec Tilk de Stargate. Et
elle a pas tout perdu.
Il chasse des requins.
Il pilote un requin robot pour défoncer des requins géants. C'est un super film, Clément.
C'est quand même malin de combattre le feu par le feu, combattre le requin par le requin. Enfin, tout se tient.
Elle est pilote de requins sous-marins.
Elle est pilote de requins sous-marins.
Oui. Et voilà, lui, il passe son film devant l'ordinateur à essayer de regarder les radars. Hein, c'est un petit peu le.
À un moment donné, il va faire de la moto quand même. Hein.
Alors, il en fait bien.
Le requin attaque la ville à un moment donné.
Je vous invite évidemment à regarder ce film entre potes, un peu alcoolisé, on peut le dire.
On va pas qu'un peu.
Pour apprécier le spectacle.
Bon, alors, enchaînons, j'ai envie de. Enchaînons.
Ah oui, si que vous mieux, est-ce qu'on peut arrêter le film du coup, s'il te plaît?
Allez,
Startman,
USS James Stewart.
Il va rester jusqu'à
le USS James Stewart.
Tu vois, ils en ont rien à foutre. Alors, tu vois,
le requin en train de défoncer un porte-avions.
Expliquez aux gens, voilà, il y a un porte-avions qui s'appelle le James Stewart.
Et puis lui c'est censé être le capitaine du porte-avions, James Stewart. Hein, il n'est pas crédible une seconde.
Mon Kate vaut mieux que ça. Kate vaut mieux que ça.
Bon, alors moi je vais enchaîner tout de suite avec quelque chose de beaucoup plus sérieux.
Oh là, on peut arrêter.
Je vais vous parler d'une série. Donc on l'a bien compris, dans Angel là, et surtout dans l'épisode qu'on a vu, ça parlait énormément de filiation, de la difficulté d'être un bon parent. Et moi depuis 2 ans je regarde une série dont je suis fan. Une série qui parle justement de ça aussi, de la difficulté d'être parent, et qui s'appelle The Americans. Vous connaissez The Americans ou pas?
Ouais. De nom.
Félicite.
Angel utilise les codes du fantastique pour parler de plein de choses importantes. Et bien là, The Americans utilise les codes du film d'espionnage pour parler là aussi de films de choses très importantes. Donc c'est l'histoire d'un couple d'espions russes dans les années 80. Philippe et Elisabeth, donc ce sont bien sûr leurs noms américains.
Les bons noms russes, ah non.
Et donc ils sont interprétés par Kerry Russell. Vous vous rappelez de Kerry Russell? Felicity, la série Felicity qu'on a tous connue.
Dans Mission Impossible 3 aussi.
Et dans Mission Impossible 3, l'agent là, que Ethan vient sauver.
Vous êtes des vrais petits cinéphiles, moi.
Un petit peu. Kerry Russell joue donc la femme, et Matthew Rhys joue le mari. Matthew Rhys qu'on a pu voir dans Brothers and Sisters notamment, une série que tout le monde connaît.
Oui.
Tous les deux vivent aux États-Unis depuis 20 ans comme des Américains normaux, alors qu'ils sont nés en URSS, mais dans le plus grand secret. Ils habitent un petit pavillon en banlieue avec leurs deux enfants, fans de Star Wars, hein, normal. On est en 81 quand la série commence.
Clément, un des enfants.
C'est ça, Clément. Mais la nuit est venue, ils se déguisent à coups de perruques incroyables et de moustaches et de lunettes improbables. Donc ils se postichent comme des fous. Ils font des escapades pour aller faire des missions. Et bien évidemment, tout ça sous le nez, au nez et à la barbe,
et à la barbe.
De leur voisin, l'agent Beeman.
Ils sont de la CIA.
Là, ils ont un agent, leur voisin, c'est un agent du FBI.
Allez. Ça tombe bien.
Interprété par Noah Emmerich. Alors ouais, ça c'est le gros what the fuck du premier épisode, mais après ça passe très bien. Parce que l'agent Beeman est plus ou moins à la recherche de eux, en fait, sans savoir que c'est eux. Et tous les soirs, ils mangent.
On apprend à la fin du premier, ça.
Bah oui, enfin on apprend dans l'épisode numéro 1 que l'agent Beeman emménage en face de chez eux.
C'est Dexter.
Ça nous dépeint la difficulté de la vie parentale. Quand t'es agent secret russe.
Ça doit pas être facile. Faut reconnaître.
Et donc, on va aborder à travers cette série les luttes entre l'Est et l'Ouest, entre le capitalisme et le communisme, entre l'athéisme et le christianisme, entre l'endroit d'où l'on vient et l'endroit où on habite. Plein de choses folles qui sont abordées dans cette série. Et tout ça avec des comédiens formidables. Kerry Russell, magique.
Ça s'appelle une... aussi, je crois, Kerry, j'ai rétréci les gosses, non?
Une série
ça faut couper.
Qui va avoir l'avantage de vous parler des années 80, de l'espionnage, ça, mais aussi du rôle de parent, comme j'ai essayé de l'expliquer.
Ah, d'accord, c'était ça de essayer.
Avec des personnages très bien. Il y aura aussi la représentation des grands-parents. On l'a pas évoqué dans l'épisode d'Angel,
bah oui.
Mais les grands-parents sont importants dans ces histoires de filiation. On n'en a pas parlé. Mais dans The Americans, les grands-parents sont présents par l'intermédiaire des chefs. Ils ont des chefs, ces deux espions, interprétés par un vieux en saison 1 et une vieille en saison 2. Et ce vieux et cette vieille sont des symboles des grands-parents. Ils sont le seul lien qui les rattache à leur mère patrie et en même temps les seuls à qui ils peuvent demander des conseils quand ils sont en galère et tout, et en même temps ce sont aussi des gens avec qui ils sont régulièrement en conflit parce que comme ils sont en train de devenir des parents, ils sont eux-mêmes des parents, ils doivent se démarquer, se défaire de la tutelle de leurs parents à eux. Tout ça est expliqué dans The American par l'intermédiaire de métaphores
et de Carrie Russell
et de portes
et de portes et de Carrie Russell. Il y a aussi des micros, il y a beaucoup de choses à dire sur le micro. Bref,
la métaphore du micro.
The Americans, c'est génial, on en fera sûrement un hors série parce qu'il y a énormément de choses à dire.
Tu viens pas de le faire hein, le... Ah bon. Pardon.
Ah, excuse-moi. Je suis en train de le préparer.
Ah oui, c'est ça.
C'était
le brouillon.
Il va durer 5 heures, je crois.
Il faudrait qu'on regarde du coup d'ici là.
Et une dernière chose pour vous faire comprendre que regarder The Americans, c'est d'utilité publique, c'est très important. La BO est géniale, ça se passe dans les années 80 comme j'ai dit, et il y a de temps en temps des scènes clippées qui reprennent des morceaux des années 80. Donc on a du Billy Joel, du Phil Collins, du Fleetwood Mac, du The Cure et du Peter Gabriel.
Mais moi je regarderai.
C'est extraordinaire. Collins, Clément,
tout ce qu'il a dit là, ça sent bon les années 90.
Une série FX. Donc on est en saison 3 là. La saison 3 vient de se terminer. Elle reprend en mars. Saison 4 en mars. Et on a très très hâte. Il y a un cliff de malade en fin de saison 3. Série géniale sur la filiation. Qu'est-ce que c'est d'être parent. Et sur l'espionnage. Et avec des acteurs formidables. Je vous laisse la parole. À vous. Bon, si t'aimes Angel, tu vas aimer ça. Quoi d'autre?
Que dire après ça?
Bah c'est non, pas facile, hein.
Alors,
j'avoue, c'est pas facile.
Je vais parler du comics Hellblazer, vous connaissez?
Oui.
J'ai ramené. Voilà.
T'as une gravure?
J'ai une gravure. La règle du jeu. Oh, il est lourd. Hellblazer, donc c'est un comics.
Oula, c'est un pavé. C'est un
oula,
pavé.
Ouh, c'est très lourd.
C'est un menhir.
On va vous parler d'un petit menhir. On va vous parler de Garth Ennis sur Hellblazer. Donc Hellblazer, c'est un personnage. Ouais. Non, alors.
Est-ce que tu peux nous rappeler le début? C'est quoi un run?
Ah.
Parce que pardon, moi perso, je.
Alors, on
je
va
sais
parler
pas
du
lire.
Passage.
Je sais pas lire.
D'un auteur, d'un scénariste sur un personnage, parce que dans les comics, les personnages, chacun leur tour, les personnages restent, mais les auteurs changent. Tu vois, voilà. Comme dans Doctor Who, par exemple.
Mais faut l'expliquer, je suis désolé, il y a des gens qui nous écoutent, ils savent pas ce que c'est un run.
Un run comme Joss Whedon, par exemple, qui a fait un run sur les X-Men, c'est-à-dire qu'il
fait.
Pendant deux ans, c'est lui qui a écrit X-Men. Voilà. Donc là, il y a un auteur qui s'appelle Garth Ennis,
qui a fait un run. Qui a fait, donc il a écrit quelques tomes.
Il a écrit une cinquantaine d'épisodes, c'est beaucoup.
Du 49 au 81, un truc comme ça, je crois.
Voilà, merci messieurs.
Mais du 41, parce que là, ça commence du 41. Donc dans ce tome-là, on a du 41 au 56. Bon, ça, tu pourras couper, ça n'a aucune importance. Hellblazer, ça raconte quoi? C'est John Constantine, qui est un détective du paranormal,
okay.
En quelque sorte, de l'occulte, qui est un peu magicien, qui pratique l'exorcisme. Donc je voulais en parler parce que c'est comme Angel, ça joue du côté polar fantastique, c'est de l'urban fantasy, comme on disait tout à l'heure avec Savro. C'est John Constantine, il boit, c'est pas du tout comme Angel, c'est l'opposé totalement d'Angel en fait. Il est pas lisse, il fume, il boit.
Non, c'est pareil ou c'est pas pareil?
Non, mais c'est pareil dans
la même ambiance, c'est pas le même personnage.
Exactement, c'est comme si Angel fumait, buvait, était une sorte de
salaud.
On voit
Angel fumer dans la saison 2 à un moment.
Ouais. Ah ouais.
Mais, wow. Et donc ouais, c'est assez glauque hein, mais... Et
ça a l'air plus beau.
Donc John Constantine mène des enquêtes, et dans cette histoire, il est confronté à son pire ennemi, hein, c'est le cancer. Il découvre au début, parce qu'il fume tout le temps en fait, il découvre qu'il a le cancer.
C'est assez fou parce que là Clément feuillette et on voit un moment où il y a Satan, ou un Lucifer qui vient voir Constantine, ouais. Donc c'est vachement surnaturel, et pourtant une des histoires les plus connues de Constantine c'est contre lui qui se bat contre le cancer.
Ouais.
Donc ça désamorce tous les enjeux.
Exactement,
paranormaux,
en fait c'est ce qu'a apporté Garth Ennis sur le Constantine, parce que le perso existait déjà avant. C'est qu'il l'a rendu encore plus humain en lui mettant un ennemi imbattable, quoi. Alors que d'habitude il exorcise tous les démons et c'est toujours lui qui s'en sort.
Mais c'est passionnant ce que tu dis, c'est-à-dire que, parce que bah, moi, donc, je l'ai évoqué, là, je ne connais rien du tout aux bandes dessinées. Moi, pour moi, Constantine, c'est ce mec qui se bat contre les forces du mal et qui a un cancer. Ouais. Et tu expliques que ce
ça n'existe pas au départ.
Cette idée de cancer n'existait pas et c'est
ça
ce
n'existe
mec...
plus après.
C'est ce mec qui l'a inventé.
Ouais.
Et ce mec est génial, faut le dire.
Et donc là, ça commence comme ça et toute l'histoire va raconter comment
c'est
Constantine.
Dangerous Habits, je crois le nom de l'arc.
Dangerous Habits, ouais. Et il va raconter comment il va essayer de lutter contre son cancer, trouver une solution, parce que du coup il connaît plein de monde dans le monde occulte des forces du mal.
Ouais, grave.
Et il va retourner voir ses potes, parce qu'il en a plus beaucoup, mais il en a encore quelques-uns.
Il en a de moins en moins, parce qu'il les laisse souvent mourir. Donc,
c'est ça, il est assez égoïste comme personnage, mais en même temps très attachant.
C'est même
super
parfois
cynique.
Un gros connard. Enfin, il y a des moments où il dit bon, là je peux rien faire, il laisse les gens mourir, et
exactement,
puis il s'en va.
Exactement, ouais. Mais c'est ça qui en fait un perso radical et en même temps. Excellent quoi, c'est voilà, et puis c'est quelqu'un comme Angel de très solitaire qui est entouré très peu, qui est hanté par les fantômes des gens dont il a causé la mort.
Ça fait devenir moitié fou en plus, donc
oui, il devient complètement fou, il est à moitié fou tout le temps. Ouais. Et alors les dessins sont un peu spéciaux, il y a plusieurs dessinateurs, hein, mais faut.
Bah, c'est vieux en fait quoi.
C'est vieux, voilà. Si ça vous dérange pas, allez-y, foncez, c'est très très bon.
Bah, moi, c'est mon héros de comics préféré, Constantine. Hellblazer, du coup.
Ouais.
Ouais. Plus fort que Batman, Spider-Man, tout ça, c'est lui. C'est le seul.
Et ça existe aussi en film avec Keanu Reeves et en série.
Alors le film avec Keanu Reeves.
Il est très nul.
Il est pas top.
Et c'est pas un navet, mais c'est pas un bon film non plus. Oui. C'est un film de série B quoi.
Ouais.
C'est, moi en fait, vu que je suis fan du perso, bah j'aime bien, mais en soi je sais que c'est pas très bon.
Et voilà. Tu préfères la série du coup?
Et je préfère la série qui est sortie l'année dernière sur NBC.
Oui, qui était annulée déjà en fait.
Qui était Constantine, qui est joué par Matt Ryan, acteur pas très connu je crois. Hein, voilà. Qui, du coup, la série s'appelle Constantine et pas Hellblazer. Et dedans il y a un mec de Lost. Le noir avec son gamin.
Lost.
Comment il s'appelle? Michael.
Michael, ouais.
Et ben je Michael joue un ange dedans.
Un ange? Ah ouais?
Ouais. Et il est pas mauvais. Et bref, la série n'a eu que 12 épisodes. Elle a eu une seule saison, elle a été annulée après, à mon grand dame. Il y a eu pourtant un
Ramadan. Ça reprenait bien le comics du coup? Comment ça se passe?
Ça reprend. Niveau l'ambiance est pas mal. Il y a des trucs assez ridicules. L'acteur joue bien. En fait, c'est une série à petit budget, ça se voit. Du coup, il s'équipe tout doux. Parfois, les épisodes sont bof et parfois ils sont vachement bien. C'est une série, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est un peu comme Angel ou Buffy, il y a des moments où ça part un peu trop loin, où c'est un peu mal fait. Mais c'est pour ça que je les aime bien, ces séries-là. Elles sont attachantes parce que elles sont un peu cheap de temps en temps, un peu kitsch. Et elles en jouent, elles le savent. Constantine, je pense, n'a pas eu le temps de se développer. On n'a pas eu le temps de voir le côté un peu conscient de la série, de ses limites. Angel et Buffy,
ils ont été. Angel, il s'est conscient dans la série quoi.
On le voit même pas fumer parce qu'aux États-Unis, ça peut.
Constantine fume pas.
Bah, on le voit poser. On le voit
toutes les cases d'une clope différente.
On le voit poser ses clopes, on le voit allumer ses clopes, on le voit pas en train de fumer, tu vois.
Oh,
bah, c'est les États-Unis, c'est le CSA quoi.
Du coup, ça contredit complètement le.
Non, mais la série.
Là, il accuse les cigarettes, c'est dit clairement que c'est le cancer,
mais
c'est les clopes.
Mais ils sont trop cons pour.
C'est son ennemi.
Ouais, objectivement, la série n'est pas incroyable, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est sympathique si vous aimez bien l'urban fantasy, si vous aimez bien Buffy, Angel. C'est vrai que ça manque un peu de ce côté brio de Buffy et Angel qui sont conscients de leurs limites et qui cassent leur code et tout. Ils le font souvent dans Angel et ils le font souvent dans Buffy. Là ça se prenait peut-être un peu trop au sérieux, mais ça restait cool. Ça restait cool. Donc il faut regarder. Et regardez aussi Stargate, j'ai pas le temps d'en parler parce que ça fait 1000 ans qu'on parle, Stargate c'est génial.
Ah ouais? Surtout Tilk. C'est ton
surtout. Enfin, j'ai fait un album photo Facebook sur Tilk qui s'appelle Tilk ce héros, en prenant des screenshots de mon rematage de Stargate. Je pourrais peut-être vous mettre le lien si vous voulez.
Mais oui, bien sûr,
sur le billet du podcast.
Moi j'adorerais
les gens qui aiment Tilk.
Non, mais ouais.
Mais c'est bien de conclure.
Alors,
pas une synthèse.
Je vais le. Donc on a terminé? On est d'accord, on a terminé.
Bah, c'est terminé.
C'est la fin.
Donc, c'est le moment de dire au revoir à tout le monde.
C'était bien, donc
de faire plein de gros bisous à tout le monde.
Merci de m'avoir invité, c'était très amable.
C'était un plaisir, monsieur Stavro, de vous avoir.
Vous avez de très bons hôtes.
Merci,
un très bon invité. Il y a des toits de tourisme, on s'est pas foutu de sa gueule.
Alors, ça, c'est bientôt la fin. Donc, on encourage tout le monde à aller voir Angel, à aller écouter nos autres podcasts. Et gros bisous, à très bientôt.
Salut.
Salut.
Salut.